Beurre FM, 18h, 20h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Vous le savez, ravi, chaque vendredi on est ensemble. C'est le grand déballage. Vous aussi, vous pouvez nous appeler à n'importe quel moment, vous le savez. Le standard est ouvert. Zora, c'est ravi de vous accueillir au 01 53 48 3000. Au menu, au sommaire de ce qui vous attend durant ces 2 heures jusqu'à 20h. Alors, 3-4 sujets. Macron Trump, quel bilan? Que doit-on retenir de cette visite qui a duré quelques jours? Le plan Borloo pour la banlieue. Eh bien, bien sûr, hein, Jean-Luc Borloo a remis son plan banlieue au Premier ministre, on va en parler. Éducation, le retour de la dictée quotidienne et du calcul mental. Ah, oui. Alors, ça fait polémique et on va la commenter. Terrorisme, 416 donateurs de l'État islamique identifiés en France. On va commenter ces sujets, vous le savez, en toute liberté d'expression. Et on touchera quelques mots aussi sur l'esclavagisme, les 170 ans, on en parle avec nos débatteurs qui sont autour de ce plateau. Je vais les présenter. Jean-Claude Chikaya, qui est chercheur à l'IPSE, Mehdi Amala, qui s'est excusé, il est coincé. Audrey Pronesti, journaliste, Farid Temsamani, c'est le retour, consultant en intelligence économique, porte-parole de Banlieue Plus et délégué général Think Tank France Fière. Tous sont ici pour partager avec nous durant 2 heures et commenter surtout l'actualité.
Beurre FM, 18h, 20h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Bienvenue à vous tous, vous le savez, vous pouvez nous appeler au 01 53 48 3000 avec ce premier sujet. Je lance d'ores et déjà la première question. Qu'est-ce que vous avez retenu du déplacement de cette visite d'État concernant Macron-Trump? Quel bilan pour cette visite? Qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce qui vous a embêté? Qu'est-ce qui vous a chagriné? Est-ce que vous considérez que le chef de l'État Emmanuel Macron a une stature internationale? Ça, évidemment, on vous attend au standard au 01 53 48 3000. Audrey, bonjour, bonsoir, comment ça va?
Bonjour Adil, bonjour à tous.
Bon, tout va bien?
Super, en plus avec le soleil, forcément, ça ne peut qu'aller bien.
Voilà. Réjouis donc.
Exactement.
Jean-Claude Chikaya, chercheur à l'IPSE, comment ça va cher ami?
Ça va très bien, merci.
Avec un micro ouvert, ce serait quand même plus efficace. Oui?
Ça va très bien.
On va résoudre ton problème technique. C'est toujours j'ai l'impression que c'est la poisse avec ce micro-là. Ouais. C'est toujours ce micro-là qui est condamné à être en panne à l'antenne en live. D'accord. Bon. Alors, on va tenter de le réparer. Et enfin, bien sûr, Farid Temsamani, bonsoir.
Bonsoir Adil, bonsoir.
C'est le grand retour, Farid.
Ça fait un bail, effectivement, que je n'ai pas été à cette antenne.
On peut l'annoncer quand même sur l'antenne, un heureux événement quand même. Non?
Non. Heureux papa depuis quelques semaines.
Mabrouk.
Merci, là, il va le faire.
Félicitations.
Merci beaucoup.
Bravo à toi. On peut l'applaudir. Bravo, c'est bien, c'est toujours bien, c'est toujours beau, c'est toujours évidemment. Les emmerdes commencent. Attention, hein. Dès maintenant.
Il paraît.
Allez, messieurs, 01 53 48 3000, vous nous appelez et vous passez en direct concernant la visite d'État avec Trump, Macron. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette visite? Est-ce que vous avez le sentiment que Macron, le chef de l'État, a eu une stature internationale? Messieurs, petit tour de table et madame, bien sûr. Qu'est-ce que vous retenez de cette visite d'État? Mitigé? Échec, comme certains le qualifient. Hamon dénonce, lui, une faible résistance face à Trump. Vous dites quoi? Je commence par, tiens, Audrey Pronesti.
Bon, c'est facile de parler de faible résistance parce que pour l'instant, on sait très bien que les circonstances, du moins le contexte est un peu particulier avec l'Iran. On en reparlera un petit peu plus tard. Alors effectivement, on voit que la partition est en train de s'écrire. Le couple France-Amérique, c'est une histoire qui date depuis très longtemps. Maintenant, on a affaire à...
Très très longtemps, une histoire d'amitié d'ailleurs.
Voilà.
Plus de 200 ans.
Maintenant, on a quand même affaire à un président, deux présidents qui ont deux profils particuliers. Mais par contre, moi, ce qui m'a frappé, c'est le positionnement de Macron avec Donald Trump. On aurait dit deux copains, ils se tapaient dans la main, des sourires.
Ça a été très commenté, ça, c'est vrai. Hein. Ouais. Je te fais la bise là, je t'en redonne une autre.
Exactement, mais bon, je pense que Macron, il a aussi oublié d'être bête, exactement.
Et c'est de la com.
C'est de la com. Et surtout, il a compris une chose, c'est que c'était une bonne tactique pour obtenir ce qu'il voulait de Donald Trump.
Pas sûr, hein, certains disent.
Quand même, Donald Trump, on ne peut pas dire qu'il est la com. Avec les autres présidents, donc voilà.
Bon, est-ce que vous partagez cela? Est-ce que vous partagez ce commentaire, Jean-Claude Chikaya, Farid Temsamani? Farid.
Oui, oui, je partage en particulier ce qui vient d'être dit. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première visite officielle d'un chef d'État sous l'ère Trump. Macron, en fait, a eu ce privilège pour une raison très simple, c'est que personne ne veut se... Enfin, personne, en tout cas, ça se bouscule pas pour aller en visite officielle à Washington, ce qu'il faut savoir. La France et les États-Unis sont des pays alliés. Et j'ai envie de vous dire, en fait, l'un comme l'autre avait besoin de l'autre. Pour une raison très simple, c'est que Trump avait besoin de sortir de son isolement international vis-à-vis des grands pays, on va dire, qui de ce monde, et Emmanuel Macron, en fait, qui est, on va dire, un peu la star européenne du moment, avait besoin de se légitimer au niveau mondial en allant chez Trump.
Désormais, on peut considérer que c'est le leader européen, Emmanuel Macron.
Vous avez un pays qui est leader sur la place européenne, qui est l'Allemagne. Je crois, si je dis pas de bêtises, que Angela Merkel est en ce moment même à Washington. La visite est beaucoup plus courte, beaucoup moins courtoise. Pour une raison très simple, c'est que elle est beaucoup plus carrée et elle est beaucoup moins dans la communication. Elle est allemande, effectivement, que notre président de la République. Donc moi, je pense qu'il y a eu de magnifiques images. En réalité, c'était extraordinaire, hein, cette communion des deux. Maintenant, je pense qu'en fait, il en est. Alors, on le redira, mais je pense que sur les éléments que le président Macron avait décidé de vouloir, en fait, infléchir en tout cas la position américaine et notamment son président. En fait, il est revenu quasiment bredouille, hein. On va le voir dans les 15 jours qui viennent, mais que ce soit sur l'Iran ou sur l'accord sur le climat ou sur le protectionnisme américain, je pense qu'en fait il aura faux sur toute la ligne, pour une raison très simple, c'est que Trump, en fait, lorsqu'il reçoit Macron, il a beau recevoir un chef d'État étranger, Trump s'adresse uniquement et exclusivement à sa base électorale, et ce ne sont pas les intérêts des Européens, et encore moins de la France et de notre président.
Et qu'est-ce que tu réponds quand ta monde dénonce une faible résistance face à Trump?
Alors, moi, je suis absolument pas sur la ligne Hamon, mais il a malheureusement complètement raison sur ce cas-là, ce qui m'étonne un peu de lui sur sa perspective internationale, puisque, bon, alors, je caricature pas l'ancien candidat à l'élection présidentielle, mais il a complètement raison, parce qu'en fait, on s'est aperçu que le président de la République, Macron en tout cas, a très peu... Il y a eu un magnifique discours, je sais pas si vous l'avez suivi, le discours au Congrès, par exemple. On a eu de belles images, une acclamation, une ovation, mais en réalité, le discours qu'il tient au Congrès est complètement différent de celui qu'il tient en face de Trump. Alors, c'est le jeu démocratique américain, hein, faut connaître ces subtilités-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au final, est-ce qu'il a réussi à infléchir la position de Trump et des États-Unis, je vous le dis, sur le protectionnisme, donc sur les taxations supplémentaires qui vont avoir lieu prochainement.
Ah, mais c'est là que ça se passe, c'est le Congrès qui décide, non ?
Sur l'Iran,
oui.
Et sur le climat, je pense que les États-Unis ne reviendront pas sous l'ère Trump dans l'accord climat de Paris, que Trump va officialiser la fin de l'accord avec l'Iran concernant les États-Unis. Ce sont des éléments que Macron lui défendait à contrario, et on va s'apercevoir qu'il n'a pas réussi, en tout cas dans cette mission-là.
0153-48-3000, 0153-48-3000, on vous attend, le standard est ouvert. On a besoin aussi de vous entendre. Moi, ça m'intéresse, j'ai envie de vous entendre. Comment vous avez vécu cela, cette visite d'État? Jean-Claude Chicaya.
Oui, pour répondre à l'élément central de la question, je pense que Macron a confirmé sa stature internationale. C'est aussi un voyage où chacun voulait augmenter son soft power, hein, que ça soit Trump ou Macron, comme l'a dit Farid, son discours. Moi, je le trouve pas dichotomique, mais magistral et vertueux et d'une habileté diplomatique, parce que c'est très bien qu'à l'intérieur des États-Unis, les États ont aussi une force et parfois, notamment sur la COP21, eux, au-delà de ce que peut dire Trump, il s'engage quand même sur les critères qui ont été définis, notamment sur le climat. Donc là, au-delà de Trump, on voit bien que Macron parle à l'Amérique. C'est-à-dire que même toutes ces amicales, TAP, BIS et autres, c'est plutôt à l'Amérique plutôt qu'au personnage. Parce que on entend bien les antagonismes et les désaccords dans son discours. Il parle à tout le Congrès, c'est-à-dire des pro-Trump, des républicains qui sont avec et contre Trump, des démocrates aussi, et à la fin du discours, quand même, 3 minutes d'ovation,
ce qui
n'est pas rien. De Gaulle peut-être a obtenu la même chose, mais et Sarkozy aussi, mais comparaison ne sera pas raison, parce que c'est quand même quelqu'un qu'on disait neuf sur le plan politique, plutôt d'un monde économique. On voit que son habileté politique est assez phénoménale. Pour ceux qui voulaient le présenter comme un banquier ou affairiste ou autre, on voit bien qu'il n'en est rien. Il a une envergure politique, économique, une habileté La suite nous dira si Trump ou si Macron, qui va gagner, donc avoir donc les fruits de cette rencontre, ne serait-ce que avec ce qui va se passer aujourd'hui.
On le sait plus ou moins quand même.
Un peu fragilisé au sein de l'Allemagne et de l'Europe, où elle a réussi quand même à rallier quelques pays qui sont assez sceptiques sur ce qu'essaye de remettre en question Macron, mais Macron quand même suit sa feuille de route avec une certaine constance.
Je t'ai vu sourire, Farid Temsamani. Pour quelle raison?
C'est la
comparaison Trump-Macron, ce que faisait Jean-Claude Tchicaïa.
Non, c'est pas la comparaison, c'est sur le fait que Macron était complètement à l'aise. S'il y a bien un pays libéral sur la planète, c'est bien les États-Unis d'Amérique. Donc il fait peut-être que plus à l'aise. Et puis, juste une donnée, mais je pense que ça l'a été suffisamment répété, c'est qu'en fait, il fait son discours en anglais. Or, en fait, c'est une. Comment dirais-je C'est une marque de respect. Ouais.
Et à l'aise.
Et
un anglais à l'aise.
Un anglais fluent.
Ouais.
Donc, il y a une marque de respect très importante vis-à-vis des parlementaires américains. Donc, effectivement, l'ovation, elle ne pouvait être. Et puis après, bon, c'est de la diplomatie, mais il fait un discours, en fait, il flatte l'oreille des parlementaires. Donc, voilà, tout va bien, quoi, à ce moment-là.
Tout va bien à ce moment-là. 0153 48 3000, on vous attend. Le standard est ouvert. On a besoin aussi de vous entendre vous aussi. Comment vous avez vécu la visite d'État du chef de l'État, donc Emmanuel Macron, aux États-Unis, hein, avec Trump notamment. Bise, l'État, voilà, on se tapote, etc. On est amis. Et en même temps, il y a des sujets extrêmement aussi concrets. C'est-à-dire, il y a quelques jours, mardi dernier, on parlait d'un nouvel accord pour contenir les ambitions de l'Iran. Et puis peu après, que le président américain, lui aussi, est qualifié de ce texte actuel sur le nucléaire de désastre. Alors, que doit-on comprendre quand même là, hein? Pas très clair cette histoire-là, vous avez fait allusion tout à l'heure. Alors, accord ou désaccord là-dessus? Qu'est-ce qu'on dit?
Pour l'instant, on ne peut pas parler vraiment d'accord. Hein.
Audrey?
Enfin, bon, en tout cas, déjà, non, pourquoi on dit que c'est...
Essayons de décrypter.
C'est tendu au niveau de la situation en Iran, quand on voit déjà le positionnement du président Rouhani. Il a clairement menacé les États-Unis, on ne va pas se mentir. Donc, c'est quand même quelque chose d'important, faut pas l'oublier. Les États-Unis ne sont pas impressionnés. Maintenant, Macron, je pense qu'il ne doit vraiment, vraiment pas être à l'aise. Moi, c'est comme ça. Je l'ai ressenti en tout cas.
Pas à l'aise, dites-moi. Jean-Claude Tchicaïa.
Avant de se rendre à Washington, il connaissait donc la position
de Trump
et sa nouvelle administration. Parce qu'avec le précédent qui a été limogé, les vieux noms n'étaient pas accordés de la même façon. Il y a un désaccord qui a été énoncé, hein, son dernier discours dans la nuit en France, à Washington, Macron énonce un désaccord et sûrement une sortie de Trump.
Ouais, on peut parler quand même de cacophonie quand même là-dessus. Hein. C'est vrai qu'en pleine conférence de presse, on voit un Trump très sûr de lui, on voit aussi un Macron qui était... Voilà, pas très à l'aise avec le sujet, hein. Notamment avec quelques questions de journalistes américains et quelques, j'ai vu, hein, celui de l'AFP par exemple, qui l'a un peu, ou BFM TV, je me souviens plus très bien, qui l'a un peu, clairement souligné qu'il y avait un problème. Est-ce que là, on peut parler d'un plan B? Bah, c'est ça la question, elle était là. Et là, j'ai senti un malaise.
Ah bah, hein. Il a dit qu'il avait pas de plan B, hein, donc bon.
Alors, ce que je vous propose, Farid, je te redonne la parole. On marque juste une courte pause pub. On se retrouve dans le grand déballage 0153 48 3000. On vous attend aussi. Vous aussi, vous avez le droit d'expression.
Le grand déballage revient dans un instant. Peur FM, 18h, 20h. Le grand déballage avec Adil Farkan.
18h20, le grand déballage avec Jean-Claude Tchicaïa, chercheur à l'IPS. Le grand déballage également avec Farid Temsamani, consultant en intelligence économique, porte-parole Banlieue Plus et délégué général du Think Tank France Fière. Et enfin, Audrey Pronesti, journaliste, et vous aussi, au standard, au 0153 48 3000, on vous attend pour commenter l'actualité concernant cette visite d'État. Cette visite d'État qui a été énormément commentée, vous le savez, partout d'ailleurs, hein, y compris les réseaux sociaux. Macron-Trump, quel bilan doit-on retenir de cette visite? On parlait de cet nouvel accord pour contenir les ambitions de l'Iran. Alors, accord, désaccord, je devais redonner la parole, le micro à Farid Temsamani.
Bah, très clairement, il y a là-dessus un désaccord total. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les États-Unis avaient besoin des Iraniens pour nettoyer le conflit irako-syrien de Daesh, ce qui a été réalisé puisque l'Iran et son allié, le Hezbollah, a fait le nécessaire pour éradiquer, en tout cas sur le terrain, Daesh. Les États-Unis n'ont plus besoin de l'Iran pour ça. Et puis surtout, entre-temps, il y a un nouveau prince héritier en Arabie Saoudite.
MBA.
Qui, Mohammed Ben Salman. Qui, je vous rappelle, juste l'été dernier, aux États-Unis, a acheté pour 350 milliards de dollars d'armement. Et en clair, lui, il pousse, dans l'accord avec les États-Unis, il pousse pour que l'Iran soit tapé, que l'Iran soit marginalisé dans ce rôle. Et je pense qu'ils vont réussir, malheureusement, en tout cas, à amener Trump vers ce schéma-là.
Mais clairement, là, sur la géopolitique, là, puisqu'on est sur ce terrain-là, clairement, c'est une histoire de lead, hein, de leader, hein, dans le Moyen-Orient. Il y a l'Iran qui s'arrache le lead, il y a l'MBS maintenant, évidemment, avec le prince héritier, hein, qui arrive au pouvoir, et il veut désormais être le leader. Alors, il est il l'a, hein, faut le reconnaître.
Je pense que à mon avis, c'est beaucoup plus profond qu'une question de personne, sur ce conflit-là.
De toute façon, il est brillant, hein, MBS, hein. Brillant mec.
Il peut être.
Je suis pas fan, mais c'est un mec qui, on doit lui reconnaître quand même cette intelligence. Il arrive au bon moment.
Non, mais il n'y a pas de souci. Son père est quand même souffrant. Il a étudié notamment aux États-Unis. Il est plutôt jeune, mais en réalité, c'est pas qu'une question de personne.
Oh, l'anglais, il est pas bilingue, hein.
Il est. Pour moi, c'est une question de pays. L'Iran veut retrouver son aura. La grande Perse, tout simplement. Vous avez. D'un côté, l'Iran.
Là, c'est l'histoire de leader.
Vous avez l'Arabie Saoudite, se considère toujours comme étant le leader du monde sunnite.
En train de dire, il y a les sunnites et les perses, les chiites.
Et vous avez un troisième acteur.
Et oui.
Qui s'appelle Israël.
Ouais. Qui est au milieu.
Qui est du côté des États-Unis.
Alors, et je veux
même. Non, au Moyen-Orient, au milieu, c'est-à-dire dans géographiquement.
Exactement.
Ouais. Autant pour moi.
Israël joue un rôle fondamental. Dans cette zone-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les Israël rêvent d'un accord de paix avec l'Arabie Saoudite. Pourquoi ? Parce qu'ils estiment que s'ils ont un accord de paix avec l'Arabie Saoudite, ils considèrent que l'Arabie Saoudite est leader du monde arabe, en tout cas dans leur philosophie.
Et disons-le, Farid, ils vont l'avoir, cet accord de paix.
Ils étaient censés l'avoir.
Mais ils vont l'avoir.
Mais
je te le donne en mille.
Non.
Dans les mois à venir, tu l'auras, ton accord.
En fait, ils devaient l'avoir déjà il y a quelques mois. Et pourquoi ça s'est pas réalisé ?
Je signe.
Parce qu'il y a toujours des faucons dans un camp ou dans un autre. Qui font quoi ? Je ne sais pas si vous vous souvenez de la déclaration de Trump qui reconnaît Jérusalem comme capitale d'Israël. En fait, les Saoudiens avaient commencé à négocier avec les Palestiniens pour une nouvelle capitale, de manière à faire entendre au peuple palestinien le fait que, pour l'État palestinien, une nouvelle capitale. Et en fait, des faucons ont réussi, malgré les 350 milliards de dollars, malgré l'accord, parce que souvenez-vous, Trump qui a fait une visite officielle en Arabie Saoudite l'été dernier, malgré tout ça, il les a quand même pris à revers. Et donc aujourd'hui, tout ça traîne un peu. Et je pense que dans la tête de Trump, puisque en fait on caricature beaucoup Trump, l'avantage quand on est caricaturé ou l'avantage quand les gens ne croient pas en vous, c'est qu'en fait, un peu comme Macron, du coup, ils se rejoignent un peu, c'est qu'ils sont très libres. Et Trump, on dit que très souvent, la caricature comme étant quelqu'un de complètement fou, mais en vérité, il est beaucoup plus libre et il fera avancer beaucoup plus de choses que ce qu'on appelle la diplomatie classique. Parce que la diplomatie classique, c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus les intérêts des uns et des autres. En vérité, lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est sa réélection pour la prochaine élection, parce qu'aux États-Unis, Trump, en France également Macron, sauf qu'en France c'est 5 ans et aux États-Unis c'est 4 ans. Et Trump a un petit avantage sur Macron en termes de timing.
Exactement. Tu partages ce point de vue, Jean-Claude Chikaïa ? Vous aussi, hein, d'ailleurs, si vous partagez le point de vue de Farid ou de celui d'Audrey ou celui de Jean-Claude Chikaïa, 0153 48 3000.
Sur le plan géopolitique, les liens entre l'Arabie Saoudite et les USA prendront le dessus. Les souhaits, mais plus que les souhaits géopolitiques d'Israël à l'égard de l'Arabie Saoudite et des États-Unis.
Oh, alors là, dans ce cas-là, c'est
triangulaire.
C'est plan B ou pas plan B ? Parce que Macron, il n'est pas très clair là-dessus. Hein.
Alors, je pense que plan B est trop réducteur. Je pense que c'est un nouveau plan géopolitique qui est en train de se mettre en place.
Oui.
Parce que, justement, la façon de faire de Trump, qui lui, il est très habile en même temps sur le plan géopolitique, mais à sa manière, c'est-à-dire que c'est un éléphant dans un magasin de porcelaine, mais il range tout après dans le magasin à sa façon et avec des alliés où les choses sont bien rangées. C'est pas grave si il y a encore quelques personnes, s'il y a de la porcelaine encore par terre.
Le pari initial, vous le savez, d'Emmanuel Macron, c'était charmer, séduire Donald Trump. Vous l'avez tous rappelé ici autour de ce plateau. Alors bon, ça n'a pas fait bouger quand même clairement d'Ayota, hein, quand même ces histoires-là. Hein. C'est pas parce que il a charmé qu'il qu'il a sorti la grande.
En trois jours, c'est difficile.
Mais en trois jours, attends, trois jours, c'est quand même long. Trois jours, c'est court et en même temps, c'est long aussi à la fois.
Mais l'épaisseur du questionnement.
C'était dense et c'était intense. D'accord, on l'a tous vécu. L'a rappelé Farid Temsamani. C'est vrai que quand on voit les images, elles sont belles, elles sont magnifiques. Esthétiquement, c'est vrai que ça a de la gueule. Mais bon, ce coup de charme, ça n'a pas fait bouger d'ailleurs ces histoires-là. Alors, quelle traduction, quelle grille de lecture peut-on avoir? Qui veut prendre la parole?
Moi, je veux bien.
Jean-Claude.
Je pense qu'il est venu aussi.
J'aimerais quand même qu'on y apporte un peu d'éclairage.
Oui, malgré son entente avec Merkel, il sait que Merkel est fragilisée.
Il a été envoyé par Merkel et
certes,
les Anglais.
Certes, mais quand tu regardes bien le jeu géopolitique européen, il sait qu'elle est fragilisée. Il veut prendre, et c'est son dernier mandat, il veut prendre le leadership européen. Il va tout faire pour lui, refaire un deuxième mandat. Et malheureusement, il n'arrive pas à convaincre une bonne partie de Bruxelles. Mais il n'a pas complètement fini d'essayer de convaincre tout le monde. Et son leadership n'a pas perdu. Et Merkel avait beaucoup plus de soft power et de puissance quand Hollande était au pouvoir. Et là, il n'y a pas une égalité de puissance et d'envergure, mais presque. On va voir aujourd'hui ce que Merkel retire de son voyage beaucoup plus court, beaucoup plus hostile. Et on va voir comment Trump va se comporter.
Bon, alors est-ce qu'il va se retirer ou pas du tout, Macron? Lui dit, il pense que Trump va se retirer de l'accord nucléaire. Vous dites quoi, vous?
Bon, j'espère que ce ne sera pas le cas.
Farid?
Oui, moi je pense que c'est déjà acté.
C'est déjà acté.
Si je peux, je pense aussi. Si je peux me permettre, en vérité.
Oui. Mais j'espère que ce ne sera pas le cas.
Ce qu'on a vu là. Ça vient d'être dit, en fait, c'est un peu du cinéma. Oui. Pourquoi? Parce que c'est une question de puissance.
Sauf
qu'on le veuille ou non. La France fait partie de ce qu'on appelle un moule européen, où dans ce moule européen, tout le monde n'est pas forcément d'accord.
Bien sûr.
Si je prends ne serait-ce que deux pays, la Hongrie et la France, par exemple, alors ils n'ont pas le même statut, mais ne serait-ce que la France et l'Allemagne, qui sont les deux leaders européens. Et puis vous avez un pays qui s'appelle les États-Unis d'Amérique, qu'on le veuille ou non, qui s'appelle la première puissance mondiale. Première puissance mondiale, ce qu'on appelle une puissance complète. C'est-à-dire que très souvent, les gens mélangent beaucoup de choses. C'est une puissance financière, une puissance économique, une puissance militaire, une puissance diplomatique. Point à la ligne. Il n'existe, à l'heure où on parle, aucun autre pays, malheureusement, parce que je suis contre le monde où dominé par un seul pays, un autre pays qui rassemble l'ensemble de ces éléments-là. Et ce qui fait qu'en fait, tout ça, c'est du cinéma. Pourquoi? Parce que les Américains font ce qu'ils veulent. Ils sortent de l'accord de Paris comme s'ils n'étaient jamais rentrés. Alors qu'Obama avait fait un large travail là-dessus, ils vont sortir de l'accord iranien comme si ça n'avait jamais... Je ne sais pas si vous vous souvenez, déjà comment on était arrivé à cet accord iranien, ça a pris des années et des années.
Exactement.
À Paris, ici même, Laurent Fabius, de mémoire, était ministre des Affaires étrangères, ça a été assez compliqué, les Russes ont mis leur puissance également en la matière, et ça a été déjà assez compliqué, et là, lui, d'un revers de main, en fait, il balaye. Pourquoi il balaye tout ça? Parce que les Américains ont une philosophie. Et ceux qui ne comprennent pas ça, ou ceux qui ne comprennent pas la politique américaine, en fait, qui n'ont pas compris cette philosophie-là, ils ne peuvent pas comprendre les enjeux qui se passent. Les Américains se foutent du reste de la planète.
Tu crois? Mais
complètement, la seule chose qui les intéresse,
c'est l'individu.
C'est leurs intérêts.
Obama, ce n'était pas le cas.
Mais si, sauf qu'Obama, c'est un peu du Hollande, c'est-à-dire un peu de l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'il ne l'affichait pas. Mais la réalité, c'est que comment fait-on pour sauvegarder le maximum d'emplois dans les territoires américains? Comment fait-on pour que la puissance financière demeure américaine? Comment fait-on pour que... etc.
Bien sûr.
C'est tout.
Les intérêts américains en premier. Où Macron est en embuscade dans l'Union européenne, c'est qu'en prenant le leadership, il explique bien dans son discours qu'il a fait à Bruxelles juste avant de partir sur Washington, il dit à chaque pays qui veulent verser vers un nationalisme, qui eux sont rentrés dans l'Union européenne pour se reconstruire sur le plan de l'identité, on va prendre Orban, on va prendre la Pologne et autres, ils vont dire que tous les nationalismes devant un monde qui se reconfigure, tu peux gonfler ton nationalisme et faire de la muscu sur le plan diplomatique, sur le plan économique, devant les mastodontes indiens, brésiliens et autres nouvelle place économique. Tu n'es rien. Mmh. Donc il faut absolument que l'Europe ne soit pas seulement une reconfiguration d'identité qui se batte et nationaliste qui soit, mais qui soit une Europe forte. C'est la moindre des choses pour essayer d'exister. Et c'est là où Macron risque encore de gagner son second mandat, parce qu'il va démontrer aux Français que aux nationalistes qui veulent verser vers le Front National et autres, pour pas les citer, que oui, mais dans le monde, économiquement, qu'est-ce qu'on pèse si on se replie sur nous-mêmes? Mmh. Alors c'est beau, c'est romantique,
c'est
pour
une
certains,
belle transition.
Mais sur le plan économique, la nouvelle configuration géopolitique, géoéconomique, elle est impitoyable là-dessus.
Ouais. Tu me permets une belle transition, tu sais pourquoi? Parce que il y a une déclaration qui a été énormément commentée ces derniers jours. Vous voulez que je vous la soumette?
Oui, bien sûr, avec plaisir.
Macron qui dit une question par Yann Barthès de TMC, d'accord, groupe TF1, qui pose la question à Hollande, François Hollande, qui est l'invité pour venir promouvoir son ouvrage, qui lui dit donc alors Macron, etc., est-ce que c'est le président des riches? Silence quand même, silence. Il le regarde et il lui dit, non, je vais vous répondre, Macron, c'est le président des très riches. Franchement, moi, ça m'a secoué. Non mais c'est vrai, je m'attendais pas à ce que Hollande dise ça, quoi. Des très riches. Moi, je m'attendais à ce que Hollande dise, oui, des riches, oui, c'est vrai, je le confirme. Mais des très riches, ça veut dire quoi? Enfin, est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration? Qu'en pensez-vous? Et puis vous aussi d'ailleurs, au 01 53 48 3000. Est-ce que Macron, c'est le président des très riches? Audrey.
Personnellement, quand je l'ai écouté, moi aussi j'ai été surprise, mais pas pour les mêmes raisons que vous, Adil. Je me suis dit, oh, il y a quelqu'un dans ce corps. Non, j'ai plus. Non, concrètement.
Ça vanne.
Il a voulu faire de l'esprit et j'ai trouvé que c'était particulièrement malvenu de faire ce genre de.
Bah, je sais pas, moi, en tant que.
Ouais. Mais j'ai trouvé que c'était malvenu parce que. En fait, il a voulu, oui, faire de l'esprit. C'était très, très déplacé. Ouais. On a l'impression d'avoir affaire à une personne qui est amère, déçue.
Aigrie.
Aigri, exactement.
C'est surtout ça, c'est pas, j'ai vu ça, moi.
Quand il a même dit sur un autre plateau télévisuel de France 2, pour dire avec, il disait oui, moi concrètement, je ne me suis pas présenté parce que je l'ai pas voulu, parce que là,
c'est plus compliqué que ça. Mais bon.
Exactement. Ouais. Sauf que ça s'est pas passé comme ça.
D'accord.
Donc il refait l'histoire. Et alors aujourd'hui, je pense qu'il l'a mauvaise.
Ouais, il l'a mauvaise. Allez, je fais un tour de table. Jean-Claude Tchicaillet, ensuite Farid Tamsamani. 0153483000, vous nous appelez. Jean-Claude, je te donne la parole juste après la pause pub. Tout de suite après.
D'accord.
0153483000, on vous attend, vous aussi également, qui nous écoutez un peu partout en France.
Le grand déballage revient dans un instant. Beurre FM, 18h, 20h. Le grand déballage avec Adil Farkan.
Le grand déballage. Si vous venez de le rejoindre, sachez-le, vous êtes les bienvenus. Le grand déballage, c'est avec Jean-Claude Tchicaillet, chercheur à l'IPSE, Audrey Pronesti, journaliste, Farid Temsamani, consultant en intelligence économique, porte-parole de Banlieue Plus et délégué général TikTok France Fier. Vous aussi au 01 53 48 3000.
Beurre FM, 18h, 20h. Le grand déballage avec Adil Farkan.
Et c'est les vacances aussi pour certains. Bonnes vacances. 18h40. On va prendre Samir qui nous appelle de Paris. Bonjour Samir.
Bonjour, vous allez bien?
Très très bien, et vous-même?
La vie est belle?
La vie, elle est très bien. Alors on vous écoute.
C'est pas vrai. Incroyable.
Allez, on vous écoute. Est-ce qu'elle est belle aussi pour vous, la visite de Macron aux États-Unis?
Je trouve que c'est complètement dérisoire.
Oui.
J'ai l'impression que M. Macron, par rapport à ce que M. Trump a énuméré en matière de taxation européenne,
oui,
il est allé, c'est très 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 bien, pour essayer en fait...
Vous l'avez trouvé comment, Emmanuel Macron? Est-ce que vous l'avez trouvé à la hauteur? Est-ce que vous l'avez trouvé bon? Est-ce qu'il avait la stature? Comment vous l'avez trouvé?
Il a affirmé des choses que j'approuve énormément. Je ne vais pas aller plus loin dans le sujet parce que je vais rester trop longtemps.
Oui, dites-nous brièvement.
Je saute, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est Mme Merkel qui est allée.
Oui, aujourd'hui c'est Merkel qui est à Washington, absolument.
Exactement. En fait, M. Macron, c'est un monsieur que je respecte énormément.
Oui.
Bien que je n'adhère pas à ses opinions.
Oui.
Je ne sais pas, quand il est revenu chez nous, en France,
oui,
est-ce qu'il est revenu avec des bonnes nouvelles par rapport à la taxation européenne?
Oui, bah, ça, c'est un sujet, c'est... effectivement. Oui, oui, oui.
Voilà.
Bon.
Mais il nous laisse, excusez-moi de l'expression, sourdoin. C'est-à-dire qu'il explique qu'il est parti voir M. Trump par rapport à ces taxations. Excusez-moi, monsieur.
Oui, je vous en prie.
C'est moi, je suis un pauvre.
Oui.
Et je sais, on n'aime pas les pauvres.
Oui.
Mais très riches, on dit. Et que si Mme Merkel a rendez-vous ce soir avec lui,
oui,
c'est pour insister que, voilà, cette taxation vis-à-vis de l'Europe,
oui.
Pourquoi après, je crois que je vais terminer, et ça n'a rien à voir, monsieur.
Je vous écoute.
Et j'espère que monsieur Macron, mon président de la République française, que je respecte, j'ai jamais voté pour lui, mais je le respecte parce que c'est un être humain, comme je le dis, constitué d'une âme, d'un esprit et d'un corps. Mais j'ai l'impression que, là je reviens en fait à la... Il n'est pas assez à la politique intérieure, nationale.
Oui. Vous trouvez, avec les grèves, avec les manifestations, avec les étudiants, vous trouvez qu'il n'est pas assez national?
C'est le contraire de notre société, monsieur.
Oui, vous avez raison, mais attendez, vous êtes libre de penser ce que vous voulez, et vous le dites en toute liberté d'expression. Merci Samir pour votre intervention.
Je me limite dans mon langage.
Non, écoutez, je ne porte pas de jugement auprès de qui que ce soit. Vous avez évidemment traduit votre pensée, vous l'avez fait en toute liberté d'expression, mon cher Samir. Merci de votre fidélité.
Attendez.
Il faut que j'aille là, mais moi, il faut que j'avance, je peux pas attendre, mon cher Samir. Attendez, je vous ai laissé 5 minutes à l'antenne. Vous croyez pas que c'est pas mal, non?
Je voudrais demander à monsieur Macron,
oui,
et à madame Brigitte Macron,
oui,
de me donner un logement sur le 16e, dans le 16e.
Bon, bah écoutez, j'espère que le message est passé. Écrivez une lettre à l'Élysée. Écrivez une lettre. Vous savez qu'ils les reçoivent. Écrivez une lettre, mon cher Samir. Je vais accueillir Jamel du 9-3. Bonsoir, Jamel.
Bonsoir, Adil. Bonsoir à tous vos chroniqueurs.
Bonsoir. Tu nous appelles d'où précisément? Quelle ville du 9-3? Parce que c'est un grand département, le 9-3.
De Noisy-le-Sec, une bien belle bourgade.
Bienvenue à toi. On t'écoute.
Alors, je voulais rebondir aussi sur cette visite d'État d'Emmanuel Macron à Washington. Je pense évidemment que toute cette semaine, on a eu différents comptes rendus de la part de la presse. Moi, ce que je voulais signaler et rappeler à tous, c'est évidemment cette visite qu'avait conduit Macron il y a quelques mois de cela au Burkina Faso.
Oui.
Et à ce moment-là, il avait demandé au président Roch Christian Kabore,
oui,
d'aller réparer la climatisation.
Oui, c'est vrai, je me rappelle très bien.
Durant cette semaine un peu glauque là, de la visite de Macron à Washington, j'ai l'impression que finalement, on a vécu une sorte d'arroseur arrosé. Macron, évidemment, il a eu, d'une certaine manière, le sort qu'il avait réservé à Ouagadougou, au président Kabore,
oui,
dans la mesure où il s'est fait totalement humilier.
Oui.
Il a voulu montrer des manifestations de virilité vis-à-vis de Trump, mais on voit très bien le gabarit de Trump, le gabarit de Macron. Bon, c'est quelqu'un qui, dans ce domaine-là, il ne pouvait pas rivaliser. Ensuite, compte tenu de ses objectifs au début, les objectifs au début, c'était quoi? C'était parvenir à une sorte de convergence sur le climat, sur la Syrie, sur l'Iran. On s'est rendu compte qu'il n'y avait rien du tout, parce que Trump, ça reste quoi? Ça reste quelqu'un qui est complètement hermétique à la diplomatie, aux usages traditionnels. Et quand on a vu, il y a de cela un an, la visite de Merkel à Washington, on s'est rendu compte que fondamentalement, c'était l'approche de Merkel qui était la plus pertinente, la plus efficace, celle qui pouvait permettre ensuite de vraiment mettre en place un rapport de force qui soit en faveur des Européens et non pas en faveur de Trump. Là, ce qu'on a vu, il y a quelques jours, c'est une capitulation en race campagne de la France. Et moi, en tant que Français, je suis humilié de voir qu'on époussette le costume de notre président et qu'on l'humilie de cette manière-là. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas, on ne sait plus parler aux Américains. Depuis Sarkozy, on est dans l'américanophilie la plus totale. On est toujours à la remorque des États-Unis et on manque d'indépendance. Moi, j'aimerais dire qu'il faut arrêter la macronophilie parce qu'on va dans le mur. Économie zéro, diplomatie zéro, France à bas. La France, évidemment.
On a bien compris, mon cher Jamel.
Humilié.
On a déjà humilié. Est-ce que... Alors, dites-moi, j'ai fait un tour de table quand même. Merci pour ton intervention, Jamel, et de ta fidélité. Merci beaucoup. Merci infiniment. 0153-48-3000. Farid, Jean-Claude, Audrey, réaction peut-être ? Ou on passe juste à ce sujet, parce qu'il faut quand même qu'on avance. Alors, pas forcément réaction, mais j'aimerais quand même une réaction de votre part. Hein, quand Hollande fait cette déclaration, à ce qu'il fait parler de lui, le président d'être très riche, Macron... quelle interprétation doit-on avoir ?
Bon, moi, je pense que Hollande, il est un peu mal placé pour parler de ça, puisqu'il il s'est fait élire en 2012 sur un discours à la ville, à Villepinte, pardon, sur mon ennemi, c'est la finance. Et la première chose qu'il a faite lorsqu'il s'est, et on peut pas me taxer d'être très à gauche, la première chose qu'il a faite lorsqu'il a accédé à l'Élysée, c'est justement de faire plaisir, à juste titre, à mon goût, en tout cas, aux gens qui potentiellement avaient du patrimoine. Et ce qui n'a pas plu d'ailleurs à son électorat. Ensuite, sur sa blague, tout le monde connaît Hollande sa volonté de blaguer à tout va. Et moi, je pense qu'en fait, il se positionne tout simplement dans cette place qu'a laissé Emmanuel Macron sur sa gauche.
Jean-Claude Chicaïa.
Oui, je vais répondre à ta question et en même temps rebondir sur ce que vient de dire l'auditeur sur ce qu'énonce Hollande. Moi, je pense qu'il réagit un peu vite avec son ouvrage. Il donne une image d'une rancœur pas encore digérée et pour un ancien président de la République qui s'est retiré de lui-même. Il dit qu'il aurait pu se présenter, mais bon, les Français jugeront et beaucoup pensent, et j'en fais partie, qu'il n'aurait pas dépassé 10%. Donc il aurait pu se présenter, hein, il en avait le droit, la possibilité. Sauf qu'il essaye d'appuyer là où ça fait mal sur Macron. C'est-à-dire que Macron va chercher un leadership européen, international, mais il y a des questions de géopolitique intérieure, comme disait l'auditeur, sur des questions sociales, où là il l'a pas encore emporté. Et ça risque justement d'être une haie un peu trop grande pour l'instant, et Merkel aussi, malgré que il y ait les contrastes allemands sur le plan économique où il y a des hausses salariales et un environnement économique qui semblerait au regard comme ça un peu rapide, une économie qui repart flamboyante avec une traduction et une répartition beaucoup plus forte, mais qu'on regarde bien sur le plan économique, il y a des travailleurs pauvres, il y a jamais eu autant de pauvres, en tout cas depuis très longtemps en Allemagne, mais il y a quand même un train économique qui peut-être va être pris par une plus grande partie des Allemands. Donc les questions sociales internes à la géopolitique allemande et internes à la géopolitique française, et c'est là où tout le monde attend... et sans compter les autres questions hein, de sécurité, de sûreté du territoire, c'est là où tout le monde attend Merkel, mais aussi Macron. Donc là, il revient en son sein, donc au sein de la communauté nationale. Et là, les questions sociales se posent. Sauf que en face de lui, il a une gauche, c'est vrai, encore trop dogmatique, qui n'a pas révisé ses prismes et ses paradigmes. C'est une chance pour l'instant pour lui, parce que les syndicats reprennent un petit peu le dessus. Mais sauf que les syndicats ne sont pas des partis politiques.
Audrey, peut-être un mot ou je passe au second sujet ?
Oui, non. Si je voulais juste revenir sur la dernière intervention de l'auditeur
Jamel,
concernant
de Noisy.
La visite d'État de Macron, il faut pas le voir comme une humiliation. Il faut bien savoir que il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses. Ça peut être aussi une tactique. Surtout, ne pas oublier que Donald Trump, avant d'être président, ça reste un showman, il dit ce qu'il a à dire, et surtout Emmanuel Macron, c'est un communicant. Donc ce qu'il a dit concernant ses interventions, je pense qu'il savait très 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 bien ce qu'il faisait.
18h50, 01 53 48 3000, vous continuez à nous appeler partout en France. On va parler du plan Borloo pour la banlieue. Attention, réaction, qu'attendez-vous de ce plan banlieue? Certains même d'ailleurs, certains maires ont démissionné, comme Stéphane Gatignon, maire de Sevran, qui n'y croit plus. Voilà, il a jeté l'éponge, il dit moi, plan banlieue ou pas banlieue, la banlieue c'est mort, c'est fini, de toute façon il n'y a plus d'espoir. Est-ce que vous pensez la même chose? 01 53 48 3000, on marque une courte pause et on se retrouve. A tout de suite, ne bougez pas.
Le grand déballage revient dans un instant. Beur FM, 18h-20h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Il est 18h53, si vous venez de nous retrouver, sachez-le, on a un peu plus d'une heure à passer encore ensemble dans ce grand déballage. Le grand déballage où on déballe tout, vous le savez, à 19h pile précise, c'est le zapping proposé, concocté par Delphine Thébault. 01 53 48 3000, c'est Aïcha que je vais accueillir, elle nous appelle de Rosny-sous-Bois. Ma chère Aïcha, bonsoir.
Oui, bonsoir, non, c'est Rosny-sur-Seine, mais bon, c'est pas grave.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Rosny-sous-Bois, c'est pas grave.
C'est pas bien, non mais c'est pas bien. Zora, non, qu'est-ce qui se passe? Mais Zora, elle a entendu ça, elle a voulu.
En même temps, voilà, sur scène,
mais c'est
magnifique.
Pas grave, je lui en veux pas, c'est Aïcha.
On peut pas lui en vouloir, on aime tous Zora, on la kiffe, et voilà. Elle réalise bien mon émission, et moi je la trouve. Allez, on t'écoute, Aïcha.
Bah écoutez, Aïcha, oui, tout à fait. Bah écoute, Adil, déjà, bon, bah je trouve que t'es un très bon animateur, voilà, entre parenthèses.
Je te remercie infiniment.
Mais là, je soupçonne une collusion géographique.
Je connais pas Aïcha.
Hein, René sur scène.
Je connais pas Aïcha.
La butte verte.
Non, du tout. Donc, en fait, je voudrais vraiment sérieusement revenir sur le plan Borloo sur les banlieues. Il y a un moment donné, il va falloir arrêter de se foutre des banlieusards. À partir du moment où vous voulez faire un plan banlieue, et pourquoi ne pas faire participer les banlieusards eux-mêmes, les associations qui sont déjà sur le terrain.
Bah c'est ce qu'elle a fait, Borloo, d'ailleurs. Il a été voir tous les acteurs de terrain, me semble-t-il.
Écoutez, moi, je fais partie d'une association, on ne l'a jamais vue.
Oui.
5 milliards, ils vont aller où ces 5 milliards?
C'est
une question quand même qu'il faut se poser.
Non, c'est 5 milliards. Oui, 48 au total. 48 au total. 48 milliards.
Excusez-moi, mais il y a déjà eu des plans banlieue. On n'a jamais vu, ne serait-ce que un projet qui venait de ces projets banlieue. Il y a un moment, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement d'acteurs qui sont déjà sur place. Moi, je vois rien. Et pourtant, on le fait, le travail, on le fait, sans subvention.
Bon, Aïcha, t'y crois plus du tout, j'ai l'impression. Toi, les 40 ans de politique de la ville, ça y est, quoi. Je veux dire, on se fout de la gueule du monde. Pardonne-moi la trivialité du terme, mais c'est ça, c'est comme ça, c'est mon sentiment.
Mais bien sûr, mais faut parler franchement. On n'y croit plus à la politique, on n'y croit plus à tous ces plans. C'est malheureux, il y a tellement de choses à faire. Si c'est juste pour calmer et dire, voilà, regardez, on pense à vous, allez, on vous jette des cacahuètes. On n'est pas dans des zoos, on n'est pas des animaux. Les banlieusards, mais ils vont travailler sur Paris, ils vont travailler partout, les banlieusards, faut arrêter à un moment donné.
Bon.
Faut arrêter.
Toi, t'es énervé, hein, Aïcha, c'est normal, c'est à juste titre.
Pas énervé, mais un peu lassé.
Ouais, lassé. Voilà. Eh bien,
Macron, c'est bien ses voyages, hein, c'est normal en tant que président de la République, mais à un moment donné, il va falloir qu'il ouvre grand ses oreilles et qu'il écoute, hein, les citoyens qui ont fait qu'il est à sa place aujourd'hui. D'ailleurs, il est à sa place parce qu'on n'avait pas trop le choix, parce qu'on avait une Le Pen en face. Mais bon, bref, ça, c'est entre parenthèses.
D'ailleurs,
voilà, donc oui, un petit peu.
Tu me tends la perche, puisque le chef de l'État, Emmanuel Macron, va courant mai, faire une grande déclaration sur le plan de mobilisation des quartiers populaires. Voilà. Bon, on l'attend, hein. On va le commenter. On verra ce qu'il va se dire.
Oui, mais ces appels-là nous font plus rien. Enfin, franchement, bon. C'est du concret qu'il faut. Du concret, il faut arrêter.
Du concret et du concret. Merci pour ton intervention, Aïcha.
Mais je t'en prie, bonne continuation.
Merci à toi aussi, merci de ta fidélité. On va accueillir Samir qui nous appelle de Paris, 01 53 48 3000. Bonsoir Samir.
Bonsoir à vous, à Adil et à toute l'équipe.
Bonsoir.
Bienvenue, on t'écoute.
Bonsoir. Voilà. Bah écoutez, les banlieues, malheureusement, heureusement, j'ai connu, on a connu.
Oui.
Entre autres Clichy-sous-Bois, Montfermeil, voilà, on n'a pas été épargné. Mais moi, excusez-moi, il y a une chose qui me dérange.
Laquelle?
C'est bien, je sais pas, on critique toujours la politique, les politiques. Peut-être, oui et non, c'est vrai, il y a de la mauvaise foi, ou peut-être, vous savez, ils décident dans leur bureau. et qui connaissent pas le terrain. Mais j'ai l'impression qu'on a, on dirait que c'est notre père et notre mère. Ouais, qu'on attend. Ouais. On attend, c'est pas bon, papa, ce que tu fais pour nous, là. J'ai l'impression qu'on demande.
Non, mais sérieusement. J'adore l'expression.
Non, mais sérieusement. Oui. Voilà, moi, je vous appelle. Moi, au-delà de ça, je suis souvent enfermé. Il y a plein de gens qui ont fait leur chemin.
Oui. C'est pas vrai, c'est vrai.
J'ai 34 ans, on n'a pas forcément attendu.
Oui.
Et là, j'ai l'impression que c'est un discours rodé. Les associations, heureusement qu'elles sont là, bien sûr.
Bien sûr.
Elles font office de tampon. Mais honnêtement, les jeunes là, de 15 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils sont où leurs parents de 7 ans? Et pourquoi on ne parle pas des parents? Pourquoi?
Alors j'ai lu, attention, à sa décharge, moi j'ai lu le plan quand même, j'ai pris le soin de lire le plan attentivement. Il parle des parents, il parle de l'éducation, il parle effectivement des mères, le rôle des mères, l'abandon des mères. Dans le rapport Borloo, on parle des mamans, des mères de famille et des parents. Il y a tout un chapitre là-dessus.
Excusez-moi, mais moi c'est pas le plan lui-même qui me dérange. Moi pour moi, comme a dit, c'est même pas des cacahuètes, on s'en fout, parce que c'est pas le premier plan. Ils vont pas Macron, peut-être il fera un petit truc parce qu'il est très malin. C'est comme chercher à recruter Yasmine Bellatar pour avoir les échos, parce qu'il sait très bien ce qu'il fait, Macron. Il a 3 coups d'avance. Mais moi, les gens que j'entends, c'est les gens, c'est pas les plans, c'est pas ceux qui les élaborent. Moi, il n'y a aucune remise en question, on dirait. Non. En tout cas, ceux qui prennent la parole, et voilà, si c'est pour cracher toujours sur l'État, ben, je suis désolé. Moi, quand je prends le bateau et je vois certains où est-ce qu'ils vivent et ce qu'ils ont, franchement, moi, je préfère manger des pâtes et du riz sur toute l'année. Ça me dérange pas. Et l'argent de la Mercedes ou je ne sais quoi, je la mets dans l'éducation de mes enfants. Voilà.
Merci pour ton point de vue. Merci infiniment, Samir. Merci de ta fidélité. À bientôt. On va accueillir Anan, qui nous appelle de Paris. 01 53 48 3000.
Oui,
que pensez-vous de ce plan Borloo pour la banlieue partout en France? Anan, on t'écoute.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Bien, bienvenue à toi.
Merci dans un premier temps d'avoir pris mon appel.
Avec plaisir, tu le sais.
Et puis, je souhaitais intervenir parce que je voulais un peu rappeler le contexte quand même.
Oui.
Et c'est bien beau de cracher sur le plan de Borloo, sauf que il faut rappeler un petit peu dans quel contexte il a fait ce plan-là et pourquoi il l'a fait. Et rappeler ce qu'il a fait avant, en fait. C'est vraiment Borloo qui a lancé la
rénovation urbaine.
Exactement. Et je pense que c'est grâce à lui qu'il y a certains quartiers qui ont évolué et qui ont changé.
Ah, les débatteurs sont pas d'accord. Mais je vais leur donner la parole.
Ouais, moi je pense qu'il y est pour quelque chose. J'ai bossé dans une des institutions qu'il a créée. Et j'ai vu l'effervescence qu'il y avait au début. Et moi je suis tout cœur avec Borloo et avec son plan. Je pense que c'est une bonne initiative.
Oui.
Après, bon, tout n'est pas parfait.
Oui.
Je pense que le gouvernement fera son tri dans tout ça.
Oui.
Je pense que le 22 mai, Macron annoncera ce qu'il a annoncé. Et je pense que ça changera pas grand chose d'ici demain.
Oui.
Par contre, je pense que c'est une bonne initiative et qu'il faut le rappeler. Parce que j'ai grandi dans un quartier, je l'ai vu changer mon quartier, je l'ai vu évoluer. Après, pas comme il faudrait ou pas aussi vite qu'il faudrait.
Oui.
Mais je pense qu'il faut rappeler quand même tout ça et je pense que c'est une chance qu'on ait des personnes comme lui qui s'y intéressent. Parce que beaucoup nous oublient, nous, dans les quartiers. Et voilà. Et je remercie aussi toutes les associations qui se sont prêtées au jeu, toutes les collectivités qu'on gueulait. Parce que c'est grâce à elle aussi si ce plan est sorti aujourd'hui et si Borloo a pu travailler comme il a pu présenter ce plan.
Absolument.
Et voilà.
Merci Anan.
Remercier tous ces acteurs-là. Voilà.
Merci Anan, merci à toi d'être intervenu et merci de ta fidélité. Dites-moi, j'ai fait un tour de table, 0153 48 3000, partout en France, vous nous appelez. Que pensez-vous du plan Borloo pour la banlieue? Est-ce que vous y croyez encore? Est-ce que vous comprenez évidemment toutes ces mesures concrètes? Est-ce que vous considérez que tous ces 40 ans de politique de la ville, comme dit Aïcha, c'est des cacahuètes? Bon, voilà, je reprends son expression. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça? Farid, je t'ai vu un peu, réagir, là, secouer de la tête à plusieurs reprises.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous tout, Farid.
Plusieurs choses. Plusieurs choses. Premièrement, ça n'est pas un plan,
oui.
Puisqu'il ne s'agit pas de plan Borloo, mais de rapport, puisque
c'est
le président de la République
dont il est l'auteur.
Exactement. Petite parenthèse sur d'autres politiques, lorsqu'elles sont prioritaires, on ne demande pas de rapport, on agit. Le président de la République s'est déjà exprimé sur la politique de la ville et sur les banlieues lors de sa campagne électorale. Je regrette qu'il ait choisi quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'estime, qui s'appelle Jean-Louis Borloo, que je connais un peu personnellement, qui est quelqu'un de qualité, La difficulté, c'est que ça fait un peu ancien monde. L'auditrice l'a parfaitement rappelé, Jean-Luc Borloo a été le père, je dis bien le père, de la rénovation urbaine.
Ah oui, ça c'est
de 2003, si oui. Je ne dis pas de bêtises, lorsqu'il a été ministre de Jacques Chirac.
L'ANRU.
Sauf que la rénovation urbaine, ce sont les habitants qui l'ont payé, contrairement à ce que les gens pensent. Ce sont les charges locatives des bailleurs sociaux qui ont payé la rénovation urbaine. Parfois, ça a été couronné de succès sur un certain nombre de villes que l'on connaît. Parfois, ça ne l'a pas été parce que des élus sont incompétents. Et quand je vois qu'un certain nombre d'élus qui font même partie de cette
alors commission... Alors, il aurait fallu appeler qui, alors, dans ce cas-là?
Je pense...
Alors, oui, à qui? Stéphane Gatignon?
Sûrement pas, vu l'état de la ville, malheureusement.
Pardon, j'ai rien contre Stéphane, mais bon. Bah qui, alors?
Non, mais
tu penses à qui?
Je pense que ce n'est pas une question de personne.
Oui.
C'est une question de volonté,
oui.
Tout simplement. Vous avez des élus... qui ont la volonté et qui le font très bien sur leur commune, parfois des élus qu'on n'apprécie pas forcément, et vous en avez d'autres qui n'en ont strictement rien à faire. Je terminerai juste sur deux, trois éléments sur la politique de la ville au sens général. Le plan Borloo, enfin le rapport Borloo tel qu'il le commet, petite parenthèse, hein, Jean-Luc Borloo qui n'a pas réussi à électrifier l'Afrique ces dernières années, je vois mal comment il pourrait arranger notre souci des banlieues en France, alors que ça fait 40 ans, je ne sais pas si vous avez entendu la sémantique. La sémantique, ça fait 40 ans qu'on parle de politique de la ville.
C'est vrai.
On est passé de 20 ans à 30 ans, et maintenant 40 ans, l'année prochaine. À partir de l'année prochaine, on va rentrer dans la 50e année, dans la 5e décennie, pardon, de la politique de la ville. La politique de la ville, c'est quoi?
D'ailleurs, c'est curieux, le chef de l'État, il n'y a pas de ministère de politique de la ville.
Il y a un secrétariat d'État, je crois.
Des territoires.
Mais parce que
la cohésion.
Je vais vous dire pourquoi.
Oui.
La politique de la ville est un échec dans notre pays. Pourquoi c'est un échec? Parce que les besoins de ces territoires-là. Alors, quand on parle de transport en commun, très souvent, on a eu quelqu'un tout à l'heure de Clichy-sous-Bois ou de Montfermé.
Oui.
On connaît ces territoires très désenclavés. Comment ils ont été construits? Parce que très souvent, on a une vision très région parisienne ou des agglomérations où en fait, on a l'impression que finalement, ce sont des quartiers, mais ils ont quand même accès au transport, etc. L'immense majorité des quartiers en France métropolitaine et dans les territoires ultramarins, ce sont des quartiers périphériques. Ils ont été construits parce que justement, les terrains étaient pas chers là où il y avait pas de transport. Ensuite, les écoles sont les moins bien loties de la République française. Les moyens policiers sont les moins bien formés et il y a là où on a le moins besoin.
Encore aujourd'hui, Farid.
Encore aujourd'hui, je vous le
Farid,
garantis.
Farid, franchement.
Les moyens
il y a quelques banlieues, franchement, là, la rénovation urbaine, c'est une réussite.
Bien sûr. Mais bien sûr.
Oui.
Il y a combien de territoires, combien de quartiers en France?
1500, non?
Il y en a officiellement plus de 2500.
Oui.
Et le dernier quinquennat, sous François Hollande, parce qu'ils n'avaient pas d'argent, on réduit à ça à 1000 territoires prioritaires.
Mmh.
Et ils avaient mis ça sous le fait qu'en fait, il fallait ouvrir notamment aux territoires.
Oui, 2500 quartiers, c'est 1500 quartiers de zones d'éducation prioritaire.
Exactement.
Ouais, c'est ça, les chiffres.
Je vais pas m'éterniser là-dessus parce qu'il faut que je laisse la parole. Mais tout simplement, vous avez des besoins qui sont plus importants, excusez-moi, dans les quartiers prioritaires que dans le 7e arrondissement de Paris.
Oui.
Alors. Le problème, c'est que les moyens qu'on met dans le 7e...
Alors, pourquoi on met pas le paquet? Alors, qu'est-ce qui se passe là?
Ça n'est pas une volonté.
Pourquoi on met pas le paquet? Il n'y a pas de volonté? C'est quoi alors?
Ça n'est pas une volonté politique.
Oui.
On n'en a strictement rien à faire. On préfère faire du saupoudrage de temps en temps. Quand ça pète, on va distribuer 2-3 associations. Je ne mets absolument pas en doute la volonté de ce rapport-là et des gens qui l'ont...
Beaucoup de maires de Borloo, messieurs et madame. Beaucoup de maires de
la commission?
Beaucoup de maires de beaucoup de quartiers, de zones sensibles ont fait une déclaration il y a quelques jours. Si c'est un échec, ce plan rapport Borloo,
le monde s'écroule, c'est ça?
Non, ça va péter.
Bah moi, je trouve que c'est
vous
une
partagez
honte.
Ou pas?
C'est une honte. C'est une honte.
Je vous jure, c'est ce que j'ai vu sur les différentes chaînes de télévision.
Pour un certain nombre d'entre eux,
notamment Grigny, le maire de Grigny.
Qui connaît
le maire de Grigny dit ça. Il dit,
tu connais Grigny?
Oui.
Et quelle est la responsabilité de ce maire face à une catastrophe de Grigny? Ils ont les
mains sales
et ils se permettent de faire ce type de réflexion. C'est honteux.
Oui. En même temps, moi, je me balade dans les quartiers populaires. Bon, les gens, ils sont. Il y a un problème. On le sent bien qu'il y a un problème d'emploi, de formation, d'éducation. Jean-Claude Chikaya et ensuite Audrey. Audrey, peut-être Audrey.
Oui, surtout d'éducation et concrètement, on va pas se mentir. Pour que bon, dans le rapport, il y a quelque chose moi qui m'embête un petit peu. C'est-à-dire l'Académie des leaders. Je parle de ça parce que ça concerne l'éducation et je trouve que c'est une façon de noyer le poisson.
Pourquoi l'Académie Leader en soi, c'est une bonne idée? L'effet miroir.
Oui, c'est une
bonne idée. L'espoir dans les quartiers populaires.
Oui, mais l'espoir, il n'y a pas de souci.
L'échec.
Sauf que, voilà, et je ne pense pas...
Vous êtes dur.
Mais la réussite passe par l'intégration et la mixité. Ça, j'en suis persuadée. Et le problème...
Bah tiens, tu parles de mixité. Il n'y a plus de mixité dans les quartiers populaires.
Et oui,
c'est le rapport Borloo, il le dit clairement.
Non,
plus de mixité.
Non, mais on est bien d'accord. Mais je veux juste terminer sur ce point-là.
C'est plus complexe que ça.
C'est que quand on se penche vraiment sur ce qu'il propose, en fin de compte, bah, c'est ni plus ni moins, pour moi, c'est pas du tout une mixité. Enfin, je veux dire, il propose une voie, mais en parallèle. Donc, où est la réussite ?
On appelle ça. Où est la réussite ? On appelle ça, Farid ?
On appelle ça la République low cost.
Oui.
La République.
Non, mais moi,
je dépose le nom. La République low cost. On est incapable.
C'est celui qui m'a
d'amener
choqué,
ces gens-là vers la réussite tout court. Donc on leur dit, vous savez, on va vous endormir. On va créer un nouveau truc. À une époque, on avait créé la diversité.
C'est vrai.
Maintenant, on va créer dans une académie des leaders. Moi, je suis abasourdi. Pourquoi ? Parce que vous pensez vraiment.
Surtout que c'est un peu tromper les gens, quoi.
C'est complètement tromper
Léna,
les gens.
Oui.
On est incapable de vous donner. On est incapable de vous amener à la réussite. Donc, vous savez quoi ? On va vous créer une sous-réussite.
Exactement. C'est exactement ça.
La République low cost.
C'est l'effet que ça m'a fait. Et concrètement...
C'est dur. 0153-48-3000, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous joindre, vous savez, sur ce plan rapport Borloo pour la banlieue. Alors, toi, Jean-Claude Chikaya, tu te maîtrises absolument bien, ce qui ne veut pas dire que les autres non, mais tu as fait aussi des rapports, tu en as fait plusieurs, rapport banlieue, quartier populaire. Eh bien, ça m'intéresse d'avoir ton regard là-dessus. Alors, rapport banlieue.
Mon regard, ce qui a été dit tout à l'heure sur Borloo, quand il était ministre, il a relancé l'ANRU, qui a été lancé quand même avec la loi Rocard de 1986 quand même.
Ouais.
Donc ça impose à toutes les villes de travailler 6 ans après la marche des banlieues, donc en 1980. Quel âge ont ceux qui avaient 20 et 30 ans et qui marchaient justement pour une égalité de traitement
ils ont 50
et
ans,
autres
60 ans,
donc ils sont grand-père ou arrière-grand-père. Donc on parle de jeunes de cité, il faut complètement révolutionner sur le plan culturel, sur le plan mental. À chaque fois qu'on parle de la banlieue, il y a une infantilisation qui s'installe. On parle de jeunes, alors que la problématique à l'intergénérationnel, elle est économique. Donc j'aurais voulu que l'entrée soit économique et ceux qui habitent en banlieue n'ont pas vocation à y rester. Donc le plan, il doit être national, global, de droit commun. Je voudrais pas tomber à
l'intérêt général.
D'intérêt commun, droit commun. C'était pourquoi ? Parce que je vais prendre l'école. Moi, je donne des cours au lycée et collège. J'essaye de placer, et je place des gens chez HEC, ENA et autres. On va pas, justement, connaissant, quand on connaît bien comment se passe la politique des écoles, des grandes écoles et autres, si tu fabriques un sous-ENA ou sous-EHEC, venant en plus de territoires stigmatisés, tu vas te travailler dans ton sac à dos ton stigmate. Que déjà, quand tu rentres chez HEC et l'ENA, tu mets à peu près 6 mois pour t'en défaire sur le plan des mécanismes intérieur et ceux que tu renvoies aux autres, mais qui sont pas toujours c'est parfois un stigmate coproduit ou subi. Donc pourquoi
ce qu'a dit Audrey tout à l'heure concernant le leader, c'est justement ça.
Alors, le stigmate. Il y a sûrement de la bienveillance de la part de Borloo, mais en 3 mois on lui demande quelque chose alors qu'il y a quand même une foule.
Non, attends, cette histoire de leader, il veut créer l'ENA pour les gens de quartier populaire.
On voit.
En soi, c'est pas dérangeant, Farid. En quoi c'est un problème?
L'excellence, malgré les grandes difficultés scolaires qu'il y a à l'intérieur des banlieues et ailleurs en France. Les voies d'excellence existent, mais il faut les réformer pour une plus grande intégration dans les grandes écoles. C'est ça. C'est pas devant cet échec de mettre pourquoi il n'y a pas plus de polytechniciens qui viennent de la Courneuve ou des milieux ruraux et autres. C'est ça. C'est à cela qu'il faut s'attaquer. Pas quand tu viens d'un petit village derrière Nancy ou du centre de Drancy où tu vas te retrouver dans un sous-ENA. Donc ça va te. Non. Il y a une urgence. Donc on doit être rapide. Sur le plan, sur le rapport Borloo, j'ai lu l'introduction, elle est assez honnête. Il a été révolté des bilans que lui a vus et a lus les rapports. Sauf qu'il parle seulement des discriminations sociales. Mais il y a des discriminations aussi ethno-raciales. Économique. Il dit, les discriminations sont d'abord sociales. Non, là, c'est tout azimut. Faut tout prendre en même temps. Parfois, c'est imbriqué et parfois, c'est autonome. Mais comme l'a dit un auditeur, beaucoup n'ont pas attendu les plans ceci ou les plans cela et ont fait leur chemin et sont réussis.
C'est ce qu'a dit l'auditeur de 34 ans. Et là, moi, j'ai pas attendu tout ça, je fais mon chemin, j'avance.
C'est pour cela que moi j'insiste, parce que sinon on va tomber dans une concurrence des territoires. Les milieux ruraux vont se lever, bon, si vous avez fait ça pour la banlieue, et les milieux périurbains, qu'est-ce que ça fait, ça nourrit le populisme, le racisme et autres. Là vraiment, on est au 21e siècle, en 2018, on est encore sur un plan banlieue avec tout ce que la charrie. Alors maintenant, ne parlons pas avant que Macron et parler, qu'est-ce qu'il va en faire? Mais là encore, c'est un rendez-vous crucial sur la question sociale. Parce que je ne crois pas, et je pense qu'il y a un déficit un petit peu à l'intérieur de son gouvernement, il y a des carences en termes de vision et de compétences chez ses ministres qui n'ont pas une vision extraordinaire des questions sociales, économiques. Mais l'entrée pour vraiment tirer les territoires, et non seulement la banlieue, parce qu'on a l'impression qu'on, c'est un pays dans le pays, que la banlieue serait conscrite au pays. Donc, il y a déjà, la non-mixité. Moi, je regarde mes classes. C'est vrai que j'ai plus, de blancs pour aller vite, de blancs français, issus de, venant de Bretagne ou de Nancy ou d'ailleurs. J'ai des blancs qui viennent
du
Maghreb et autres. Il le dit.
Ouais, il le dit.
Sauf qu'il dit que c'est les discriminations sociales. Non, moi je regarde sur mes fiches roses, c'est leurs fiches, j'ai des classes avec une mixité sociale. Ils ne sont pas tous pauvres. Ils ne sont pas tous pauvres. Ils ne sont pas tous démunis et précaires. Et ils ont des aspirations, la jeunesse d'aujourd'hui. C'est pour ça que, en lisant le rapport, je me suis dit, ça c'est un rapport qui n'a pas assez posé question à des collégiens, à des lycéens et à des nouveaux adultes ou des adultes qui ont une vision transversale et intergénérationnelle. Mmh. Et là, c'est une vision un peu ancienne, avec parfois des réactions un peu anciennes, devant une réalité. Les élèves que j'ai aujourd'hui, que je vais revoir lundi, je pense que le rapport Borloo, ça leur passe au-dessus de leur tête, mais par contre, la réalité, ils la vivent.
Faisons un tour de table. Comprenez-vous tous ces maires qui ont envie ou qui ont démissionné, comme Stéphane Gatignon, maire de Sevran?
Moi, je suis comme Farid, je comprends pas. T'as une mission dans un territoire d'urgence. Tu démissionnes? Non, tu démissionnes pas. Quand tu t'engages, tu vas au fond des choses. Surtout quand t'es maire d'une ville dite en banlieue. Parce que si on regarde tous les projets des maires qui seraient susceptibles de démissionner, ils se sont parfois de manière démagogique, clientéliste ou autre, s'ils sont honnêtes, appuyés sur les urgences sociales et économiques et ont promis aux électeurs, alors à l'électeur potentiel, de se battre à 100% pour eux.
Allez, on fait une courte pause, il est 18h15 pratiquement, dans quelques secondes, 01 53 48 3000, vous continuez à nous appeler pour le plan rapport banlieue, et je redistribue la parole à Audrey et à Farid. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Le grand déballage revient dans un instant. Beur FM, 18h-20h, le grand déballage avec Adil Farkan.
19h20. Allez, 19h20, bientôt la fin, puisqu'on ferme ce chapitre du grand déballage à 20h. 01 53 48 3000, le grand déballage, c'est avec Jean-Claude Chicaïa, Audrey Pronesti, Farid Temsamani, et pour l'heure, vous savez, c'est le zapping concocté par Delphine Thébault. Avec un léger retard, j'en suis désolé, mais c'est maintenant ou jamais.
Le grand déballage, le zapping de la semaine.
L'actrice Nathalie Portman ne se rendra pas en Israël fin juin. Elle devait y recevoir un prix prestigieux appelé parfois le Nobel juif. L'artiste a fait savoir qu'elle ne veut pas être associée à Benjamin Netanyahou.
L'homme d'affaires français Vincent Bolloré a été mis en examen par la justice pour corruption d'agents étrangers, complicité d'abus de confiance et faux et usage de faux. Les juges d'instruction soupçonnent le groupe Bolloré d'avoir eu recours à Havas, la filiale de communication du groupe, pour faciliter l'élection de dirigeants africains. En remerciement, les présidents du Togo et de Guinée auraient cassé les concessions portuaires existantes pour qu'elles soient réattribuées au groupe Bolloré.
La loi asile et immigration qui a donc été votée ce week-end, est-ce que vous l'auriez votée si vous étiez
non,
au gouvernement?
Non, je n'aurais pas voté. J'aurais demandé vraiment qu'on supprime toute référence à la pénalisation de la solidarité. Je pense que la France n'est pas
ce
la
qu'on
France.
Qu'on appelle le délit de solidarité qui a été en partie assoupli mais pas du tout supprimé.
Pas du tout supprimé, donc il y a un délit de solidarité. Est-ce que vous vous rendez compte, la terre entière doit se retourner, pas dans leur tombe sinon ils peuvent... Enfin voyons, c'est presque grotesque. Vous n'empêcherez pas les gens qui meurent devant vous d'être aidés par n'importe qui, normal.
Le président des riches, c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est ce que vous pensez? Non, ce n'est pas vrai. Il est le président des très riches. Vous avez ma réponse.
D'accord.
Le grand déballage, le zapping de la semaine.
Le zapping de la semaine qu'on retrouve dès la semaine prochaine avec Delphine Thébaud. Dites-moi messieurs, Farid, Jean-Claude et Audrey, avant de passer au troisième sujet. Alors ce plan Borloo, finalement, est-ce qu'il y a encore un espoir dans les quartiers populaires? J'aime bien ce que tu disais tout à l'heure Jean-Claude Chikaya. Évidemment, ça nous parle à tous. C'est tous ces auditeurs qui ont défilé depuis tout à l'heure qui disent il n'y a plus d'espoir. Certains même comme Aïcha parlent de cacahuètes. Farid qui dit je suis choqué par les propos tenus par notamment le maire de Grigny. Audrey qui dit bon, j'attends de voir mais j'y crois plus. Alors, ma seule question, alors, est-ce qu'il reste un espoir pour cette jeune génération, les pauvres? Qu'est-ce qu'on leur laisse?
Mec, tu as lu le rapport, il est pas mal.
Il est alarmant.
Il est alarmant.
Il est alarmant.
L'introduction assez extraordinaire d'ailleurs de franchise. Mais il a eu 3 mois pour le faire et il a lu les bilans. Mais je ne sais pas si on peut tomber à esprit raccourci sur Borloo. Il faut attendre ce que Macron et Philippe vont faire de ce rapport. Ouais. Ils vont être obligés de faire autrement.
Mais c'est imminent. Déclaration de Macron, c'est là, dans le chef de l'État. C'est là, au courant mai, je vous dis. C'est très bientôt. Très proche. Paraît-il, elle est très attendue et il va faire une grande déclaration. Notamment sur la laïcité. Voilà, je vous balance quelques petites infos.
Moi, je pense que j'ai plus d'espoir dans les déclarations potentielles de Emmanuel Macron sur ce sujet-là que sur, malheureusement, je dis bien malheureusement,
ouais,
que Jean-Louis Borloo.
Alors, un petit tour de table. Quelle concrète il faudrait faire? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? J'ai bien compris, évidemment, votre point de vue concernant le rapport Borloo. Selon vous, vous qui connaissez bien les quartiers populaires, il faut faire quoi au juste? C'est quoi les mesures? Il faudrait faire quoi? Accompagner les entrepreneurs? Plus d'éducation? Il faut faire quoi? Même ce que Farid y sourit.
C'est multidimensionnel.
Vas-y, saisis-toi de la parole.
C'est multidimensionnel. Hein, tous les rapports le disent. Oui. C'est-à-dire que l'entrée, elle doit être économique, mais aussi sociale, mais aussi les mécanismes dans les têtes. Et là, c'est chaque responsabilité personnelle. Je veux bien qu'on parle des maires, mais on peut parler des maires de tout le territoire français. Et il y a la question de la sécurité, de la sûreté, il y a la question de l'avancée d'idées terroristes et obscures, mais aussi radicales sur le plan populiste et autres. Mais il y a tellement de mais il y a aussi des choses à vraiment, parce que dans son rapport, il dit bien une chose capitale que personne n'a dit. C'est-à-dire que il dit, j'ai lu tous les rapports, c'est tous les plans, ça a été plus des annonces que des faits au cœur des problématiques.
Et il le dit, oui.
Il le dit, il l'écrit.
Faut les reconnaître quand même. Hein.
Donc,
c'est un beau rapport.
Aucun des ministres et des personnes qui étaient qui s'attaquaient donc à cette problématique. Ce dont j'ai peur, mais en même temps, on ne peut pas. Et là, il va être obligé. Je sais pas s'il va pouvoir faire de l'en même temps. Il va être obligé de faire de l'en même temps, c'est-à-dire agir un petit peu partout. Et je pense que s'il se saisit du côté multidimensionnel où on doit agir en banlieue et ailleurs, parce que si vous voulez aider Drancy, la Courneuve ou les Mirailles à Toulouse, faut agir sur tout Toulouse et l'environnement toulousain.
Ouais.
C'est pas seulement sur les Mirailles. Faut pouvoir que les gens de Mirailles sortent des Mirailles, s'ils le veulent, et leur donner donc un pouvoir d'achat. Mais aussi que des personnes n'aient plus peur d'habiter aux Mirailles, parce que une mixité sociale, c'est plutôt une mixité raciale qu'on veut, hein. Parce que, et je dis pas qu'il n'y a pas de précarité et difficultés plus grandes.
Ouais.
Mais c'est un peu cela ce qui est dit entre les lignes.
Ouais. Farid Temsamani. Et ensuite, après, Audrey Prenessi. Moi, j'ai un point de vue, mais bon. Je vais m'abstenir.
Moi, je pense qu'il faut remettre les choses dans le contexte. Petite parenthèse, hein, pour ceux qui connaissent le Mirail, c'est inhumain d'habiter au Mirail. Et pourtant, vous avez des associations extraordinaires qui essayent de maintenir ce cap. Mais c'est inhumain quand vous avez cette barre d'immeubles qui existait, il y avait la même barre d'immeubles à Meaux.
C'est impressionnant.
À Beauval. Vous avez des élus à Meaux, on ne va pas faire sa publicité, qui ont fait un travail de rénovation urbaine, et vous en avez d'autres qui n'en ont strictement rien à faire. Avant de remettre les choses dans le contexte, lorsque vous avez des élus qui se permettent aujourd'hui de dire « attention, il n'y a pas assez de moyens » et qui ont failli 3 mandats de maire, Ça n'est pas, ils n'ont pas été élus en 2014. C'est le troisième mandat de maire.
Exact.
Trois fois six.
Ils font partie du bilan.
Ça fait 18 ans. Et ils ont échoué eux-mêmes. Et aujourd'hui, ils vous disent, non, mais en fait, on n'a pas assez de moyens. Je vais démissionner. Moi, je suis scandalisé. Juste pour revenir sur les choses dans le contexte. La France, ça n'est pas que la métropole. Vous avez des territoires urbains densifiés, notamment en Outre-mer, où personne n'en parle.
Ouais.
Vous avez des quartiers populaires qui vivent une misère.
C'est le plus haut.
On a tendance à les oublier, c'est vrai.
C'est le plus haut taux de chômage. Excuse-moi, Farid, je te
Exactement.
Laisse la parole. C'est-à-dire que la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, dans chaque île, il y a plus de 60%
des jeunes. Et il y a des quartiers populaires là-bas.
Ah, mais plus que.
Alors, qui vivent des difficultés. On a tendance à les oublier. Il faut les associer.
Exactement. Je suis toujours choqué qu'on les oublie. Ensuite, la France, c'est 65, 66 millions d'habitants. C'est à peu près 6, 8, allez, 10 millions de personnes qui vivent dans les quartiers populaires. Heureusement que les quartiers populaires vivent. Heureusement que vous avez un tissu associatif. On en vient. Moi, je regrette absolument pas. Mes plus belles années, c'est dans les quartiers. C'est lorsque j'étais à Mantes-la-Jolie, notamment.
C'est vrai.
Mais pourquoi? Mais la difficulté, c'est quoi?
Je confirme.
Est-ce que. Adil confirme largement. Est-ce qu'en toute honnêteté, est-ce que je souhaite que ma descendance puisse avoir vivre la même chose que moi, ce que j'ai vécu à Montlagie? Non.
Non.
Et pourtant,
la réponse est non.
J'ai vécu des choses extraordinaires. Ouais. Mais le problème, c'est qu'est-ce que l'on veut? On nous a vendu une notion républicaine. C'est-à-dire que là où on a besoin, il faut plus de moyens. Et la difficulté, elle est dans ces territoires-là. On a parlé de transport en commun. On a parlé de formation, d'éducation. Il y a un plan sur l'éducation. On a parlé d'éducation. On a parlé de sécurité. Moi, je vais le dire. Le taux de policiers disponibles dans n'importe quel quartier populaire de France est 4 fois, 5 fois moins important que n'importe quel arrondissement parisien.
Ah ouais.
Premièrement. Ensuite, si vous voulez, la question c'est une volonté politique.
Ça donne une idée quand même. Hein.
Est-ce que, on parlait de rapports et de plans. Depuis le 77, où on a commencé à parler de la politique de la ville, on est au 14e plan. Et le problème, c'est qu'en fait, on rend pas service aux quartiers populaires lorsqu'on parle de ces sujets-là de manière non sérieuse. Pourquoi? Parce que le reste de la population française pense. Parce que là, Borloo, par exemple, au début, il nous annonce 48 milliards. Il nous dit qu'il faudrait 48 milliards d'investissement. Le problème, c'est que
Au total, c'est 48 milliards.
C'est ce qu'il annonce.
Ça
le problème, c'est que les journalistes.
Mais il faut 5 milliards.
Les journalistes reprennent ça. Je peux vous garantir une chose. Au fin fond de la Corrèze, les gens vous disent quoi?
Ils entendent 48 milliards.
Encore 48 milliards?
Eh ouais.
Alors qu'il n'y a pas un centime de plus.
Voilà.
Et ça va se terminer. Vous savez comment ça va se terminer? Ça va se terminer. Ah ben, on va se mettre d'accord sur 5 milliards. Mais ces 5 milliards, ils correspondent à quoi? Aujourd'hui, chaque année.
Parce qu'il y a des gens
engagés. Et oui, la politique de la ville en France coûte, aujourd'hui, fonctionnement compris, c'est-à-dire avec le salaire des fonctionnaires, 1 milliard par an pour 10 millions d'habitants. Je laisse le soin aux auditeurs de faire le ratio. Est-ce que vraiment, là où on a le plus besoin, finalement, on leur donne des cacahuètes? Moi, je suis pas une question de chiffres. Moi, je préférais qu'on supprime la politique de la ville.
Ouais.
Moi, à un moment donné, il faut qu'on arrête de se moquer des gens. Bien sûr qu'il y a des gens formidables.
Alors, si on supprime, on fait quoi?
Alors, moi, je pense.
Certains te diront.
Oui. Pour moi, c'est le droit commun.
Exactement.
Le droit commun, c'est la République qui, normalement, le fait naturellement. C'est-à-dire que.
Exactement.
Je vais le faire très court. Là, on a plus de délinquance, il faut de plus de policiers.
Ouais.
Là, on a un illettrisme plus important à l'arrivée, peut-être pas un illettrisme, en tout cas, une malformation en termes de savoir lire et écrire en sixième. Et bien, à un moment donné, il faut qu'on ait plus d'enseignants là. Alors, ça a été fait. Alors, il se trouve que Emmanuel Macron, lorsqu'il a pris une des premières décision qu'il a prise lorsqu'il est devenu président de la République, c'est qu'à la rentrée dernière, en fait, on a divisé pour un certain nombre de classes, notamment aux primaires, par deux les classes. Et ben, c'est une excellente chose. Pourquoi?
Exact.
Parce qu'on en a plus besoin de bons enseignants et de nombreux enseignants là que, je suis désolé de le dire, à Janson de Sailly dans le 16e arrondissement,
ou à Louis-le-Grand. Où là, c'est véritablement, en termes de moyens, des zones d'éducation prioritaires.
Tant qu'il n'y a pas de volonté politique, et malheureusement, je pense qu'on va y couper. Tant qu'il n'y a pas de volonté politique dans ce pays concernant ces quartiers-là, je pense qu'il faut arrêter de se moquer de la vie de
ces
gens-là.
Donc pas de politique de la ville, de plan banlieue.
Je pense que si on n'est pas capable de faire vraiment les choses, eh bien il faut pas mentir aux gens. Il faut arrêter de nous vendre de la République low cost comme on l'a évoqué tout à l'heure.
Mais toi, ton discours, il est très clair, c'est le droit commun et pas de politique de la ville, pas de plan banlieue, pas de plan de mobilisation.
Ça veut dire plus de moyens de l'autre côté.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il faut parce que la politique de la ville, en fait, c'est pas grand-chose, c'est peanuts en vérité.
Audrey, on l'a très peu entendu.
Non, mais bon, je suis assez d'accord avec ce que viennent de dire Jean-Claude et Farid. Maintenant, j'aurais tendance à rajouter de donner un peu plus de moyens aussi aux associations qui sont justement dans ces territoires, parce que je pense qu'on a tendance à oublier le travail des éducateurs spécialisés, l'investissement et surtout leur utilité, parce que tout à l'heure Farid vous parliez du Mirail, je pourrais donner un autre exemple, les 4000 comme d'autres, malheureusement, je le rajoute, moi j'ai eu la chance de ne pas grandir dans ces territoires. Je ne veux pas utiliser le terme cité parce que pour moi c'est péjoratif. Par contre, j'ai grandi avec beaucoup d'amis qui vivaient, donc moi ça faisait partie de mon quotidien. Avant d'être journaliste, je travaillais dans l'éducation nationale, dans les zones d'éducation prioritaire, et c'est pour ça que je suis persuadée, je persiste et signe, que c'est par l'école qu'on peut s'en sortir. Ça, il n'y a pas de mystère. Après, effectivement, on ne va pas se mentir, s'il n'y a pas un lien social qui est établi entre l'école et justement ces territoires, à un moment donné, ça va bloquer. Moi, je rajoute juste ça, parce que ce que vous avez dit, je suis entièrement d'accord.
Oui, puis est-ce que
Jean-Claude Chicaillet, après on passe au sujet de l'éducation.
Je t'ai vu travailler, t'as fait un travail remarquable. Je dis pas ça pour rien. À Épinay-sur-Seine, notamment, on peut être ne pas venir et avoir habité en banlieue, avoir une expertise.
D'où l'intérêt.
Il doit avoir un regard croisé. Et habiter en banlieue, ça te donne pas obligatoirement une vision, une expertise empirique. Au contraire, parfois ça peut causer le contraire, mais on ne peut pas faire sans les gens, comme disait Aimé Césaire. Faire un pas sans le peuple, c'est bien, mais deux pas en avant avec le peuple, c'est mieux. Et Césaire avait tout à fait raison, parce que lui, il parlait de Fort-de-France, qui, justement, à l'intérieur même de cette ville principale de la Martinique, c'était une ville banlieue, entre guillemets. Le centre-ville était très petit. Et dès qu'il pleuvait, c'était les bidonvilles de Nanterre à Fort-de-France. Et lui, il a dû s'attaquer à cela. Et lui, sa philosophie a été celle-ci. Il est bien que Farid parle de la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et autres, parce que c'est aussi à cause, en tout cas un élément supplémentaire, c'est aussi les endroits où la violence est plus grande. La Guyane d'abord, la Réunion ensuite, la Guadeloupe, malheureusement, ils sont dans ces classements. Alors, on va pas essentialiser, bien sûr, mais souvent, les gens vont essentialiser quand, tu l'as dit tout à l'heure, vous l'avez dit, 48 milliards pour les banlieues, les gens vont dire 48 milliards pour eux. Alors que, aujourd'hui, au 21e siècle, il faut absolument retravailler sur la cohésion sociale et la communauté nationale. Tous les territoires, peu ou prou, ont besoin justement de cette question. Alors, sociale et économique.
Tout petit peu. Allez, il faut qu'on traite encore les deux autres.
Juste terminer une chose. Plus on va tarder à s'attaquer au véritable fléau de ces quartiers-là, plus la correction et les conséquences vont être violentes pour l'ensemble du pays. Oui. C'est aussi simple que ça. Et les gens qui ne comprennent pas ça, qui se voilent la face, et notamment les gouvernants, en se disant on va faire du saupoudrage, en fait, ils ne font que retarder l'échéance, parce que tôt ou tard, c'est comme sur la laïcité notamment, tôt ou tard, le correctif adviendra, et tôt ou tard, le correctif sera violent pour le reste.
Et beaucoup plus cher sur le plan économique, là, les sommes qui vont être alignées. Et c'est un problème européen, parce que les banlieues françaises, il y a beaucoup de pays européens où on trouve des similitudes frappantes, notamment en Allemagne et ailleurs. Donc, s'il veut prendre le soft power, son plan pour être repris en Europe et les fonds européens, parce qu'ils donnent pas mal aussi pour la banlieue, ça aussi faut le savoir.
Spécialité de Borloo.
C'est la spécialité de Borloo. Donc son rapport est à lire quand même, pour ceux qui disent qu'il y a des cacahuètes. Il n'y a pas que des cacahuètes. Il y a vraiment une
Je vous invite donc tous à le lire, messieurs, on va devoir marquer une courte pause. Il nous reste encore deux autres sujets: l'éducation, le retour de la dictée, et ensuite après on parlera de terrorisme. Si vous souhaitez intervenir, 01 53 48 3000, ne bougez pas, on se retrouve dans quelques secondes. A tout de suite.
Le grand déballage revient dans un instant. Beurre FM, 18h, 20h. Le grand déballage avec Adil Farkan.
Il est 19h40, 20 minutes à passer ensemble. On va parler d'éducation et de terrorisme. Éducation, le retour de la dictée quotidienne et du calcul mental. Alors, le ministre de l'Éducation nationale fait la leçon aux profs. Il dit, Jean-Michel Blanquer, il publie il y a quelques jours une série d'instructions pardon, pour lutter contre la chute du niveau des élèves français. Alors, j'aimerais quand même avoir une réaction vous concernant, parce que est-ce qu'il n'y a pas là un retour aux fondamentaux? Une méthode pour enrayer une autre? Hein? Ça va être l'anarchie tout ça quand même. Audrey?
Alors, avec grand, grand plaisir, j'ai découvert que oui, on revient aux fondamentaux. Et alors? Ça a fonctionné, enfin j'ai envie de dire, ça a fonctionné. Enfin en tout cas moi j'ai fait partie de la méthode Sidlabi qui est clairement en 3 mois je savais lire. Alors je pense pas être plus intelligente que la moyenne, je m'en rappelle encore. Donc maintenant, pour avoir constaté quelques années plus tard justement, je reviens sur le fait que j'ai travaillé dans les écoles. Eh bien, sincèrement, dans les écoles primaires, notamment cours préparatoires, puisque c'est la classe qui est concernée.
Bien sûr.
Clairement, les enfants mettaient plus de temps, mais c'était d'autant plus frappant que les lacunes se ressentaient au collège. Donc, moi, je ne vois pas quel est le problème. Sincèrement, on en fait tout un scandale, toute une polémique, mais c'est une méthode qui a porté ses fruits. Alors, je ne vois pas pourquoi on devrait remettre ça en question, faire deux exercices par jour, un quart d'heure de dictée. Je ne pense pas que ça va tuer un élève.
Tour de table, Farid Temsamani.
Moi, je suis que favorable à ces méthodes-là. En tout cas, c'est assez innovant. Contrairement aux banlieues où en fait le constat est fait par tout le monde depuis pas mal de temps, en matière d'éducation nationale, c'est assez récent d'avoir cette critique, positive ou négative, peu importe, mais d'avoir cette critique sur ce qui s'est fait depuis quelques temps en la matière. Alors, je ne veux pas critiquer les anciens ministres de l'éducation nationale, c'est pas ça. Mais en tout cas, c'est fondamental pour notre pays. Moi, ce que je remarque, c'est quoi? C'est que, premièrement, le plus souvent, les gens, même dans les quartiers populaires, se délaissent de l'école publique, mettent leurs enfants dans le privé.
Ouais, premièrement, c'est très juste. Les chiffres parlent. Hein.
Alors, ce qui est quand même choquant.
De plus en plus, d'ailleurs.
Nos impôts vont quand même à l'école publique, à la base.
Bien sûr.
Ensuite, ce qui est encore plus choquant, c'est qu'en fait, vous avez une disparité entre vous habitez Paris ou le reste de la France. C'est même plus une question de banlieue. C'est Paris et le reste de la France. Et moi, je trouve ça inadmissible. Pourquoi? Parce que les gens qui habitent au Mirail, on a parlé tout à l'heure du Mirail, contribuent à la même proportion dans l'effort national que la personne qui habite le 6e arrondissement de Paris. Moi, je trouve ça pas normal qu'on n'ait pas les mêmes moyens. Et c'est encore une question de volonté politique. Là où on a besoin que les enseignants soient plus nombreux, mieux qualifiés, tout ce que vous voulez, eh ben, on n'a pas ça. Et au contraire, en fait, on continue à créer cette disparité. On a parlé tout à l'heure notamment des grandes écoles.
Oui.
Bah, moi, je voudrais que ces grandes écoles-là, que ce soit ce qu'on appelle l'excellence, que ce soit Polytechnique, Normale Sup, pour ne citer qu'elle.
L'ENA.
Alors, l'ENA, pour certains, c'est même plus l'excellence, hein. C'est déjà un peu la fin. Et pourtant, pour beaucoup, l'ENA, c'est ce qui gouverne la France. Mais vraiment, l'excellence, c'est malheureusement les écoles scientifiques. C'est d'abord Polytechnique, ce sont les mines, ce sont Centrales. Et toutes ces écoles-là, la difficulté, c'est que si vous n'êtes pas formé quasiment, je dis bien quasiment à l'école primaire, c'est quasiment terminé. Et le problème, c'est que moi, je ne me résous pas à ce que ces écoles-là soient uniquement ne concernent qu'une minorité de notre pays. Moi, je voudrais que des gens issus, et il y en a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est tellement rare. La proportion de gens issus, allez,
de l'immigration.
Je veux parler de ce que moi je connais. De Mantes-la-Jolie à Polytechnique, elle est quasiment inexistante. Si on prend les 20 dernières années, je parle même pas de l'année dernière, les 20 dernières années. Ben moi je trouve pas ça normal. Je ne veux pas. Je vais vous dire ce qui va se passer. Il va se passer qu'on va être encore une fois une éducation à 2 vitesses, pour pas dire à 3 vitesses. Personnellement, je pourrais le supporter. Pour mes enfants, il n'y a pas de souci. Mais je n'accepte pas que d'autres enfants ne puissent pas avoir les mêmes moyens. Et ben ça, et à un moment donné, il faut combattre. Et je dis bravo à ce ministre. Alors, il est pas parfait.
Alors, comment on prépare le terrain pour ton fils, ton futur fils, justement? Il pourra faire un jour au Polytechnique?
Je lui souhaite, mais.
Si je vais dans ta logique, un jour, il faut lui préparer le terrain,
ton
enfant. Il fera ce il est issu de l'immigration, non? Dans 20 ans.
En toute honnêteté.
Est-ce qu'il aura la chance de faire Polytechnique?
Eh ben, tout dépend de où est-ce qu'il ira à l'école en maternelle.
Exactement. Et qu'est-ce que tu vas faire? Non, mais parlons cas de figure concret.
Il se trouve que j'ai volontairement.
Non, mais c'est vrai.
J'habite volontairement un quartier de Paris.
Oui. Qui forme les polytechniciens.
Qui a un certain nombre de maternelles qui font partie des meilleures maternelles de France. C'est triste à dire. C'est malheureux, c'est égoïste.
Si je suis un peu ta logique, il faut aller tous aller se jeter dans ces écoles-là. Mais c'est impossible, Farid, ce que tu me dis.
Qui est capable de payer le mètre carré que connaît le Trocadéro de Paris?
Impossible.
Et voilà.
Impossible. Jean-Claude Chicaïa. C'est dur, hein, ce que vient de dire Farid. Hein. Non, mais c'est vrai.
Oui, mais
si
c'est...
on veut que nos enfants aient issus de l'immigration.
Et j'en suis pas fier.
Pour l'instant, en tout cas.
Moi, j'en suis pas fier.
Oui.
Moi, j'en suis pas fier.
Mais volontairement, je t'ai poussé. Hein, franchement, justement, si on doit préparer ton fils dans 20 ans, s'il doit faire polytechnique, comment on fait? Comment on lui prépare le terrain? Voilà, c'est ça la vraie question de l'éducation. Elle est là. Jean-Claude Chicaïa.
Moi, je suis assez favorable sur les recommandations. Donc, c'est pas une obligation ni une injonction de la part de Blanquer. C'est une recommandation. Non, c'est une recommandation, mais n'oublions pas que les professeurs, la plus grande partie, ce sont des fonctionnaires. Donc, il y a une obligation, entre guillemets, d'obéissance. La loi le dit. Et l'état même des difficultés en termes de lecture et de calcul. Tout le monde voit les difficultés, comment elles sont notoires. Et on attendait donc des recommandations de la part du ministre. Ces recommandations arrivent sur une méthode syllabique. Pour moi, il n'y a pas d'anachronisme. Je rejoins ce que vient de dire Audrey. Et il est bien qu'il fasse ces recommandations. Ça n'entame en rien l'autonomie du professeur dans sa classe, qui de toute façon ferme la porte et fait classe. Mais la répétition du calcul mental et de la lecture, c'est bien sûr ce qu'il faut faire. Mmh. Dans l'état actuel du niveau de lecture fin maternelle,
c'est vrai, hein.
Primaire et chuté, au collège, hein. Mais demandez aux ceux qui sont au collège, en lycée et même à l'université.
Ouais.
Maintenant, c'est pour ça que ceux qui disent, qui crient, oui, il y a pas de sélection, mais il y a toujours une sélection. Ne serait-ce que quand tu rends tes copies, ça part de 0 à 20 pour ceux qui ont le bonheur d'avoir bien travaillé. Mmh. Donc, même quand tu mets tous les moyens, il y aura quand même une sélection celui qui a révisé, celui qui n'a pas révisé, celui qui a bossé, et puis celui qui est meilleur en maths, et ceci, cela. Donc, moi, je pense que la répétition pédagogique, hein, pour être dans l'enseignement, c'est puissant.
Allez.
Et ça tire vraiment les élèves vers le haut.
Avançons, s'il vous plaît, dernier sujet, je veux parler de terrorisme. 416 donateurs, c'est énorme quand même, hein, de l'État islamique identifié en France. Le procureur de Paris, François Molin, vous savez ce qu'il dit? Il craint un phénomène de microfinancement du terrorisme en France. Plus de 400 donateurs ont financé Daesh. Devinez quoi? C'est un système alimenté par des sommes modiques, mais en nombre très, très, très important. Alors, les services ont également identifié certaines choses, c'est-à-dire des collecteurs essentiellement basés en Turquie, au Liban, grâce à qui les djihadistes qui se retrouvaient en Syrie ou en Irak pouvaient recevoir ces fonds. Alors, réaction, comment vous le vivez-vous à cette déclaration quand même? Parce que moi, évidemment, hein, y a plein de choses. Hein. Après, il parle de zakat, la charité. Enfin, on mélange tout là quand même. Hein.
Alors, en fait, si le sujet n'était pas sérieux et qu'à la clé, il n'y avait pas des terroristes et des morts,
ouais,
ça ferait presque sourire. Attendre 2018, ouais, pour avoir le procureur de Paris.
Un secret de polichinelle, quand même.
Nous dire, ah ben en fait, on a détecté 406 personnes. Mais moi, je rigole.
416,
pardon. Ça me fait doucement rire. Il y a parmi ces gens-là trois types de personnes. Vous avez, premièrement, les familles concernées. Les familles dont les enfants, malheureusement, parfois, sont partis sur le terrain. Mmh. Et qui, pour leurs enfants, envoient des mandats.
Oui.
C'est une réalité.
Mais ce rapport, il le dit.
Sont-ils complètement complices? J'en sais strictement rien d'un point de vue juridique. En tout cas, ça, c'est les premières. La deuxième chose, ce sont des gens qui adhèrent idéologiquement. Et là, ce sont des gens individuellement qui adhèrent idéologiquement et qui réussissent à envoyer. Ça, c'est beaucoup plus grave. Et enfin, vous avez une troisième catégorie qui sont des structures humanitaires que l'on connaît.
Absolument.
Que les services savent pertinemment. À qui, d'ailleurs, les banques ont tellement peur qu'elles leur ferment régulièrement les comptes bancaires,
oui,
parce qu'elles ont peur d'être associées, notamment suite à l'amende record de la BNP aux États-Unis. La réalité, c'est quoi? C'est qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que l'on fait pour tous ces gens-là? À un moment donné, il faut arrêter de se moquer des gens. Daesh a été vaincu sur le territoire, et en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait référence à une réunion hier dans les bureaux de l'OCDE avec un certain nombre de pays présents.
Très juste.
Et en fait, tout simplement, c'est parce qu'en fait, on se rend compte que Daesh n'existant plus sur le territoire, mais le problème, c'est que le trésor de guerre, lui, eh ben, il est toujours là. Et le trésor de guerre, il commence à être blanchi un peu partout. Et les Occidentaux ont extrêmement peur, justement, de se retrouver avec des sociétés qui soient mêlées de près ou de loin. Petite parenthèse, ça me fait penser à l'affaire Lafarge.
Ah oui, Lafarge, oulala, les affaires.
Qui payait,
des coûts aussi d'ailleurs.
Et en vérité, Lafarge, c'est un peu, alors je ne vais pas le nommer ici, mais c'est un peu comme une autre société. Lafarge, en fait, est un des bras armés de l'État français. Donc, la France, c'est, les services français savent pertinemment, c'est comme sur le financement du terrorisme, on sait pertinemment quelle organisation. Vous savez qu'un jour, on m'a dit un agent français sur une grosse association qui récoltait de l'argent à juste titre, parce que les gens donnaient vraiment sincèrement pour ces pays-là. Pour les gens qui vivaient dans le dénouement le plus malheureux, notamment en Syrie, en Irak, etc. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Mais on sait pertinemment que ce n'est pas leur volonté de financer Daesh, mais qu'ils sont obligés de collaborer avec Daesh pour pouvoir amener des ambulances, des vivres, etc. sur ces territoires-là. Et bien, on fait quoi ? On leur ferme, on leur dit non, c'est terminé ? Il se passe, si vous faites ça, vous avez des émeutes partout en France. Pourquoi ? Parce que c'est un phénomène émotionnel tel qu'en fait, parfois, ils préfèrent laisser fermer les yeux que d'agir vraiment. Et bien, moi, c'est cette hypocrisie qu'il faut dénoncer.
Jean-Claude Chicaillé, ensuite, après Audrey, et je dois rendre l'antenne. Rapidement.
Oui, je pense que ça n'a surpris personne. Le fait que cette organisation terroriste se donne le nom d'État, donc terroriste, ils disent pas terroriste, mais islamiste, c'était donc avec tout ce renfort prosélyte pour essayer de tirer à lui et vers lui, pas seulement les idéologies et les esprits, pas seulement fragiles, vers une idéologie forte et qui est mondiale. Donc, sur le plan économique, il n'y a aucune organisation qui ne peut vivre que sur ces deniers, sur le terrain géographique national. Mais à partir du moment où c'est interne, le EI, ça pourrait être État international, il faudrait rajouter un i. On sait très bien que les ramifications sont internationales et sur le plan économique. Et ça va malheureusement à la personne qui va donner avec justement pour des associations, des personnes qui sont dans le dénuement le plus total ou autre, à ceux qui vont adhérer idéologiquement. Donc ils vont donner entre 10, 20, 30 euros et tous les autres. Et puis la stratégie quand même assez huilée sur le plan économique, où on peut le retrouver dans des économies, dans des structures liées à des taxis, liées à des ceci, ou à des il y a du blanchiment comme les plus grandes entreprises mafieuses ici et là depuis des décennies.
André.
Non, moi je suis assez d'accord avec ce que disait Farid concernant une certaine hypocrisie qu'il faut dénoncer, mais il y a quelque chose qui m'a dérangée dans cette déclaration. Je me suis juste mis à la place des familles des victimes. Là, je rajoute juste ça en plus. Bien évidemment que c'est choquant de savoir que ne serait-ce qu'une personne puisse donner un euro pour ce genre d'organisme. C'est bien évidemment choquant. Mais quand on soulève des chiffres concernant les attentats, ça m'a un petit peu dérangée. Voilà, c'est juste ça.
Et c'est dit.
Je voulais rajouter.
Allez, je rends l'antenne. En tout cas, merci à vous tous. On vient de passer évidemment un agréable moment tous ensemble avec Jean-Claude Chicaillé, chercheur à l'IPSE. À très bientôt.
À bientôt.
Farid Tamsamani, consultant en intelligence économique, porte-parole de Banlieue Plus et directeur général du Think Tank France Fier. À bientôt.
Merci Adil, merci pour l'invitation.
Et enfin
merci,
Audrey Pronesti, journaliste. À la réalisation en Césora, merci à vous tous, vous nous avez appelés un peu partout en France. Vous auditeurs, et bien sûr, c'est aussi grâce à vous cette émission. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve la semaine prochaine avec autant de plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.
Retrouvez le grand déballage en direct tous les vendredis de 18h à 20h et en podcast sur beurrefm.net.